Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Seize.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Debout les Français, ce sera avec Clara Eger. Le référendum sera-t-il une révolution démocratique ou pas? Ensuite, avec Charles-Henri Gallois, le conseiller économique de Jordan Bardella, nous nous poserons la question, le RN est-il un parti libéral ou est-il devenu un parti libéral? Et avec Fabien Bouglet, nous nous poserons une autre question, Tchernobyl est-il un accident nucléaire ou un accident soviétique? Nous fêtons en effet les 40 ans de cet accident. Et Fabien Bouglet nous répondra que c'est un accident soviétique, en tout cas je l'espère. Et bien sûr, les chroniques de Pascal Pointu et d'Alexandre de Galzin, avant que Xavier Aimant ne nous parle de crise écologique et de farce écologiste. Nous sommes le 24 avril en 1915, des personnalités arméniennes de Constantinople ont été raflées. C'était le début du génocide des Arméniens par la Turquie qui a fait 1 million de morts. Voilà, la Turquie continue à nier. Et tout de suite, un petit peu d'actualité.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, est tout juste en place et ne chôme visiblement pas. Hier, il a annoncé une série de mesures d'économie pour la ville dans le but de mettre fin aux inlassables gabegies de son prédécesseur Christian Estrosi. Sur les 600 millions de budget de la ville chaque année, le patron de l'UDR a annoncé baisser la fiscalité de 60 millions à travers une série de mesures. Écoutons.
Vendredi, je le ferai le matin au conseil municipal de Nice.
Moins combien ?
Et l'après-midi, moins 20% à peu près sur la taxe foncière, moins 10% sur la taxe d'habitation, moins 5% sur la taxe sur les ordures ménagères. Et l'après-midi, nous le ferons à la métropole de Nice que je préside, 51 communes avec Nice. Et on va baisser, ça veut dire qu'on rendra aux Niçois à peu près 55 millions d'euros de pouvoir d'achat et on va faire un gigantesque plan d'économie. J'ai commencé en baissant d'1 million d'euros les indemnités des élus et j'annoncerai jeudi toutes les coupes qui vont faire en sorte que l'argent public ne sera plus gaspillé, ne sera plus dilapidé.
Alors jeudi c'était hier, donc baisse de la taxe foncière, de la taxe sur les ordures ménagères, de celle sur les résidences secondaires. La mairie réduit son train de vie, y compris avec des mesures symboliques. Ainsi, Éric Ciotti a annoncé vendre plusieurs véhicules de fonction appartenant à la mairie. Baisser donc d'1 million les indemnités des élus, supprimer l'intégralité des frais de représentation du maire et s'émanciper de sa propre sécurité personnelle. Un programme de dégraissage du mammouth dont on observera les fruits avec les années. Nous évoquerons ce sujet à 7h25 avec Charles-Henri Gallois, donc restez bien avec nous chers auditeurs.
Et l'extrême gauche trouve de nouvelles occupations sans changer de passe-temps.
Oui, le pays serait en guerre avec l'Allemagne qui serait toujours en train de s'occuper de la montée de l'extrême droite. Hier, on apprenait le lancement de l'Observatoire des mairies RN, émanation de l'Observatoire national de l'extrême droite. L'objectif, payer des militants passés par une fac de sociaux à scruter du matin au soir toutes les décisions prises par les nouveaux maires RN de France dans le but de ne strictement rien laisser passer. On ne doute désormais plus qu'un camion poubelle en retard de 10 minutes sera relié directement à la montée du fascisme. Ainsi, les gauchistes sont appelés à dénoncer leur maire via des signalements auprès de cette association. On voit que certaines personnes ont quand même beaucoup de temps libre en France. Hier, d'ailleurs, et première bombe médiatique qui choquera sans doute tous les Français et les vrais républicains, un maire RN a refusé de mettre à disposition le parc municipal pour la fête de la CGT. Dommage que ces courageux experts n'aient pas le temps de parler des augmentations d'indemnités des mairies et les filles, ou de la multiplication par 4 des frais de représentation de l'écologiste maire de Lyon, Grégory Doucet.
Et puis les journalistes adorent la communication de Macron.
Absolument, qui aurait pu prédire? Hier, le cofondateur de l'agence Coriolink, Pierre Alibert, a publié un sondage mettant en lumière l'avis des journalistes français sur la communication de l'État. Alors que chaque année, le budget communication atteint 1 milliard d'euros, dont tout de même 123 millions uniquement pour l'Élysée, les journalistes français semblent trouver ce poste de dépense absolument prioritaire. 58% estiment que la baisse des dépenses de communication de l'État aura des effets négatifs, 56% considèrent qu'elle risque de nuire à la qualité de l'information des citoyens, 53% qu'elle peut juger la transparence de qu'elle peut affecter la transparence de l'action publique, 60% craignent une dégradation durable de l'accès à l'information publique, 46% considèrent que les relations presse sont l'investissement prioritaire à préserver. 1 milliard d'euros, c'est à peu près 30% du budget du ministère de la Culture, tout ça pour que Macron soit à 18% de popularité. Heureusement, on voit que les gens qui vous informent dans les grands médias ont le sens des priorités.
Et un petit mot de littérature.
Oui, une sombre affaire touche l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Ce dernier a été condamné en Algérie à 3 ans de prison ferme et plus de 5 millions de dinars, donc 30 millions d'euros, d'amende pour son prix Goncourt de 2024, le roman Houri, qui, en exploitant les blessures de la tragédie nationale, aurait porté atteinte aux institutions de l'État et même terni l'image de l'Algérie. 2 mandats d'arrêt internationaux ont été émis en 2025 contre l'écrivain qui a été jugé sans assister ni être représenté à son procès ni connaître le détail de son jugement. Son roman Houri fait l'objet d'une seconde plainte déposée par Saada Arban qui l'accuse de plagiat. Elle affirme avoir été suivie psychologiquement par l'épouse de l'auteur. Elle a également porté plainte pour violation du secret médical.
Et bien avec tout ça, si Daoud n'est pas bien en France, c'est de quoi s'étonner. Et alors le sport?
Et bien dans un contexte de tension avec l'Italie et de guerre en Iran, Donald Trump essaie de jouer sur le terrain de la géopolitique du sport. Le président américain a ainsi suggéré de céder la place de l'équipe iranienne à la Squadra Azzurra, donc l'équipe d'Italie, au cours de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis. Pas sûr que le président de la FIFA, organisation responsable de la compétition, accepte ce transfert.
Merci Alexandre, et un petit mot du temps, il paraît qu'il va faire beau mais frais.
Non, pas si frais, en fait il fait beau sur l'ensemble du pays avec uniquement quelques nuages au niveau de l'Atlantique, mais à part ça, côté température, on aura 16 degrés à Cherbourg, 22 à Paris, 24 à Limoges, 26 à Bordeaux, et nous célébrons en ce 24 avril, Saint Sava et Saint Fidèle de Sigmaringen, dont je peux vous dire que c'est un grand homme mort martyr pour sa foi.
Merci beaucoup Alexandre de Gazan.
Ligne droite.
Et bonjour Magda.
Bonjour Richard. Bonjour chers auditeurs. Hier, l'Union européenne a validé définitivement un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine après plusieurs mois de blocage. Volodymyr Zelensky est à Chypre pour un sommet européen qui a été organisé dans la foulée. Le déblocage de cette somme intervient après la levée du veto de la Hongrie. Ce dernier conditionnait son accord à la reprise de livraison de pétrole russe via un oléoduc traversant l'Ukraine. Autrement dit, ce succès européen est d'abord le résultat d'un rapport de force interne et de négociations énergétiques, pas d'une unité spontanée. Sur le papier, les dirigeants européens vont s'en féliciter. Ils parlent de soutien, de solidarité, de défense de l'Ukraine face à la Russie. Mais derrière cette communication, il faut regarder ce que cela signifie concrètement. 90 milliards d'euros, c'est une somme qui est massive, engagée au niveau européen, donc financée directement ou indirectement par les États membres, dans un contexte où les finances publiques sont déjà bien sous tension, y compris en France. Parce que cette décision arrive au moment même où l'Union européenne reconnaît ses propres fragilités économiques. La flambée des prix de l'énergie liée à la situation actuelle au Moyen-Orient a déjà coûté 24 milliards d'euros supplémentaires en 7 semaines pour les approvisionnements en pétrole et en gaz. Autrement dit, les marges budgétaires sont déjà sous pression et malgré cela, on engage de nouveaux montants considérables, d'autant que ce prêt intervient alors que les discussions sur le futur budget européen estimé à environ 2000 milliards d'euros pour la période 2028-2034 s'annoncent particulièrement tendues. Entre les États qui veulent investir davantage et ceux qui appellent à la prudence budgétaire, les divisions sont déjà là et au milieu, il faudra bien financer tout ça. L'Union européenne montre une capacité très forte à mobiliser des dizaines de milliards d'euros pour des enjeux extérieurs, mais beaucoup plus de difficultés à répondre aux problèmes internes, qu'ils soient économiques, sociaux ou industriels. On parle de souveraineté, mais les États restent dépendants de décisions prises à 27, avec des blocages, des vétos, des compromis. Cet épisode hongrois montre surtout que pendant des mois, un seul État a pu bloquer l'ensemble du processus. Cela montre que l'Union européenne fonctionne moins par stratégie commune que par négociation permanente entre intérêts nationaux. Et pendant ce temps, la communication reste la même, unité, solidarité, efficacité. Mais dans les faits, le système est lent, contraint, dépendant de rapports de forces internes. Ces 90 milliards d'euros sont des engagements financiers qui auront des conséquences à moyen et long terme sur les budgets nationaux. Au moment où certains pays, notamment la France en particulier, sont déjà confrontés à des déficits très élevés, jusqu'où ça va aller. On a d'un côté une Union européenne qui se veut puissance politique, capable d'agir rapidement, et de l'autre une réalité faite de blocages, de compromis et de décisions prises sous contrainte, mais aussi d'une tendance à mobiliser toujours plus d'argent sans traiter les déséquilibres internes. Ce prêt de 90 milliards d'euros est présenté comme un succès diplomatique et un symbole d'unité européenne. Cela montre surtout que l'Union est capable de débloquer des sommes aussi massives quand il s'agit d'un enjeu un peu extérieur, mais beaucoup plus lente, beaucoup plus hésitante dès qu'il s'agit de répondre à ses propres déséquilibres. Concrètement, l'Union européenne s'est mobilisée des ressources, mais elle le fait sans véritable maîtrise politique globale, au gré des crises, des rapports de force et des compromis, et à force d'empiler les décisions coûteuses sans traiter les fragilités de fond. On ne parle plus d'une gestion ou de budget, mais bien d'un choix politique.
Merci beaucoup, Magda Hautefeuille.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, ce sera avec Clara Egger de Solutions démocratiques, avec qui nous sommes en train de parler pour résoudre un léger problème technique. Mais d'abord, présentons Solutions démocratiques. Clara Egger donc, est une chercheuse qui a voulu participer à l'élection présidentielle de 2022, qui n'a pas obtenu le soutien des maires et qui se met en ordre de marche pour en 2027 porter une proposition tout à fait originale qui est la proposition de Solutions démocratiques, donc qui est un parti politique d'un nouveau genre, puisque en fait il tient simplement son programme et d'une simplicité incroyable. Il s'agit d'instaurer en France la démocratie directe, mais donc une vraie démocratie directe. Bien sûr, voilà, il y a tous ces problèmes que les Français ne cessent de seriner et même de marteler, qui sont le pouvoir d'achat, la sécurité, les inégalités, l'immigration, l'état des services publics. Mais en fait, selon Clara Egger, il faut changer les règles. Et pour changer les règles, eh bien, le plus simple, c'est bien sûr de faire en sorte que les Français puissent avoir l'initiative. En 2027, la candidate va donc essayer d'obtenir les parrainages de 500 maires et elle va aussi, avec donc son parti Solutions démocratiques, en tant que professeure de sciences politiques, mais surtout en tant que militante engagée, elle va essayer de redonner au président de la République un rôle qui soit uniquement ce rôle d'arbitre par rapport à tout ce que les Français ont envie d'apporter. Alors, juste un petit mot. Voilà, donc j'ai envoyé le lien à Clara Egger. Voilà, on peut peut-être essayer de l'avoir plutôt au téléphone que par Zoom. Oui, non, j'étais en train de vérifier le mail, le téléphone qu'on m'avait donné, et voilà. Donc,
On est toujours à l'antenne, ne vous en faites pas. Radio Courtoisie ne s'est pas arrêtée, ligne droite tourne toujours.
Camarade Alexandre.
C'est moi.
Voilà. Donc, la proposition de Clara Egger est assez simple, et en même temps assez originale, puisque elle est la seule à la porter. C'est de faire en sorte qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne constituante.
C'est-à-dire constituante.
C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens puissent en fait décider eux de la modification de la Constitution.
Alors, je vois mal comment ça pourrait se. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que en fait, les citoyens devraient voter sur chaque élément de la Constitution. C'est ça l'idée générale ? Oui. Alors, non mais écoutez, hop, vous en faites pas. Je vais juste un instant.
Effectivement, il faut que les citoyens puissent.
Expliquez-moi un peu ce que vous avez pu lire justement de cette proposition dont vous me parlez.
Eh bien, en fait, pour le moment, si on a envie de modifier la Constitution, on peut simplement, on est obligé de passer par l'ensemble des parlementaires qui réunis, les deux assemblées étant réunies et avec une majorité des deux tiers, peuvent décider de modifier la Constitution. Et après, le Conseil constitutionnel leur explique s'ils ont le droit ou pas. Là, l'idée, ce serait, pourvu que les citoyens, lors d'un RICC, soient d'accord, eh bien, on pourrait faire en sorte que ce référendum soit mise en œuvre. Et donc, voilà, autrement dit, il appartiendrait maintenant aux Français de modifier la Constitution et pas uniquement aux représentants. Et donc, le fait que les Français aient la main, ce serait absolument admirable. Je suis en train de meubler, vous l'avez bien compris, chers auditeurs, on va finir par y arriver, on va finir par avoir Clara Egger au téléphone, même si c'est évidemment à peu près aussi compliqué que de modifier la Constitution en France.
Oui, effectivement, parce que ça veut dire que finalement, nous, on est dans un système qui est quand même un système représentatif depuis un certain temps. Et beaucoup disent que, effectivement, c'est pas possible de mettre en place un système plus direct, donc non représentatif, à une échelle d'un pays comme la France, effectivement un pays de 70 millions d'habitants. On sait qu'il y a des débats justement qui se font, notamment au niveau de la néo-réaction, sur cette idée qu'on pourrait employer la technologie pour avoir une sorte de techno-État, donc forcément ça peut potentiellement être aussi une techno-démocratie, et effectivement peut-être que le numérique en cela peut aider là-dessus, mais je vous laisse avec donc votre invité.
Merci beaucoup Alexandre. Bonjour Clara Hegg.
Vendredi.
Bonjour Clara Hegg.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, pardonnez-moi, d'habitude ça marche beaucoup mieux, mais en fait, voilà, on en parlera après l'émission. Vous portez deux propositions qui sont absolument fondamentales et en même temps très originales. D'une part, redonner le pouvoir aux communes, d'autre part, redonner le pouvoir aux citoyens. Parlons d'abord de ce pouvoir aux citoyens.
Bah, dans notre pays, la France est un des pays en Europe où les citoyens ont le moins de pouvoir, c'est-à-dire... Aujourd'hui, en France, le pouvoir se concentre en fait dans les mains d'un petit nombre de personnes, principalement les membres du gouvernement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que notamment le pouvoir de proposer des modifications constitutionnelles et de les approuver soit étendu à l'ensemble d'entre nous. Et ça nous paraît absolument fondamental pour sortir d'une situation où effectivement, de moins en moins de personnes décident et font subir au plus grand nombre dans notre pays.
Alors, c'est d'ailleurs cette notion de moins en moins de personnes décident, peuvent, et en parallèle de plus de personnes subissent. C'est exactement ce que vous avez étudié avec la crise du Covid-19, puisque vous avez travaillé sur la manière dont cette crise avait été gérée dans toute l'Europe.
Oui, exactement. Et on a trouvé des résultats qui sont intéressants. Alors, comparé avec les autres pays européens, c'est intéressant parce que tous les pays ont employé les mêmes mots pour gérer le Covid. Donc, par exemple, tout le monde a parlé de confinement, de passes sanitaires, mais en fait les dispositions étaient très différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, je vous donne juste un exemple, on le sait assez peu, mais la France est le pays européen qui a le record du nombre de jours d'état d'urgence devant la Hongrie. Donc on parle souvent de la Hongrie comme exemple de pays qui est en régression démocratique et qui suremploie l'état d'urgence, mais en fait nous sommes, pendant le Covid, les champions d'Europe.
Voilà, 861 jours, effectivement, avec un gouvernement qui a multiplié les mesures exceptionnelles et exactement. Surtout qui a totalement détruit la confiance des Français dans les institutions.
Oui, alors elle était déjà pas haute, soyons très clairs. C'est-à-dire, la France se caractérise, et oui, on le comprend en fait, hein, quand les décisions sont prises en fait contre les gens, mais non pas avec eux et pour eux, où ils n'ont aucun pouvoir d'influencer les choses, et bien effectivement, la confiance dans les institutions baisse fortement. Alors, elle n'est pas aussi basse pour toutes les institutions en France, mais elle est particulièrement basse pour les partis politiques, car on est à 6% des Français qui déclarent avoir confiance dans les partis politiques, et au gouvernement, au Parlement, c'est un peu plus haut, mais ce n'est pas brillant non plus, on est sur un peu en dessous de 40%. Donc, moins d'un Français sur deux a confiance aux personnes qui sont censées les représenter.
Alors, avec ce référendum d'initiative citoyenne constituante, ce que vous proposez, c'est qu'en fait, passé un certain seuil, ce sont les Français qui décident de modifier la Constitution. Et par exemple, donc le Conseil constitutionnel ne peut pas expliquer qu'un référendum sur l'immigration, c'est pas normal. Laurent Fabius et ses successeurs, comme Richard Ferrand, ne pourront pas empêcher qu'on modifie la Constitution en privilégiant leur interprétation des institutions.
Exactement, parce qu'il y a deux, il y a dans le référendum d'initiative citoyenne constituante, il y a deux outils qui sont très importants d'avoir ensemble, qui sont complémentaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire. C'est l'idée que la Constitution ne peut pas être modifiée sans vote de l'ensemble des citoyens français. C'est-à-dire que ce sont des décisions trop importantes pour qu'elles soient laissées aux seuls représentants. Ça, c'est le 1. C'était la voie ordinaire dans notre Constitution. Et en fait, il y a un petit alinéa qui introduit la possibilité pour le Congrès de voter des modifications constitutionnelles dans le dos des citoyens. Et cet alinéa a été en fait utilisé pour toutes les révisions constitutionnelles sauf une. Et l'autre aspect, c'est d'ouvrir effectivement le droit de proposer des modifications constitutionnelles aux citoyens. Donc, par exemple, vous preniez le sujet de l'immigration. En fait, les citoyens français pourraient, à partir du moment où ils reçoivent 700 000 signatures, ils pourraient proposer une réforme précise de la politique migratoire française. Donc, on n'est pas sur un référendum oui-non à plus d'immigration, mais vraiment une proposition précise sur comment gérer les enjeux migratoires aujourd'hui.
Alors, ce pouvoir rendu au peuple, vous voulez aussi le rendre aux communes, qui sont l'échelon démocratique le plus proche des citoyens, et d'ailleurs celui qui a le plus fort taux de confiance si on regarde les baromètres du CEVIPOF. Et par exemple, vous proposez que les communes, en fait, déterminent elles-mêmes leurs compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État jacobin qui impose aux communes un certain nombre de prérogatives. Au contraire, ce sont les communes qui expliquent, eh bien, si je veux, c'est moi qui gère l'eau, si je veux, c'est moi qui gère l'environnement, si je veux, je décide de ma fiscalité.
Oui, alors ça c'est un enjeu. En fait, nous, on est une candidature qui souhaite ouvrir quelque chose qui est vraiment inédit, comme vous le disiez, parce qu'en fait, aucun candidat aujourd'hui ne le porte. On est vraiment, là, la présidentielle commence, hein, les candidats commencent à frétiller. On est vraiment re-rentré dans une période où, en fait, on a des candidats qui sont un peu des candidats de Père Noël, qui promettent tout et n'importe quoi, alors que pour avoir la possibilité de faire ces réformes, il faut qu'ils cumulent tous les pouvoirs, parce que là, la fonction présidentielle dans notre pays, je le rappelle, est une fonction d'arbitrage, une fonction d'union des Français et pas une fonction de décision. C'est le Premier ministre qui a une fonction de décision. Donc nous, on veut un peu rétablir l'équilibre dans notre pays, c'est-à-dire redonner le poids aux citoyens, vous l'avez expliqué, et redonner le poids aux communes, aux élus locaux vis-à-vis des élus nationaux. Bon, aujourd'hui, vous êtes parisien, moi non, je suis ardéchoise, vous vous sentez peut-être moins, mais le pouvoir se concentre géographiquement vraiment à Paris. Et quand vous vivez en zone rurale aujourd'hui, loin d'une grande ville et loin d'un centre de pouvoir, il ne vous reste plus rien. Vous n'avez pas accès à l'hôpital, l'accès à l'école est difficile, l'accès aux services de base, une boulangerie, une boucherie, mais quasiment inexistant. Et on a des maires qui sont en première ligne, très populaires, parce que c'est des élus locaux, très proches des gens, effectivement, et qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ils ne décident plus de rien, mais ils doivent assumer auprès des citoyens des décisions qui leur sont défavorables. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est un sentier qu'on souhaite ouvrir avec les maires de France, nous, on fait une proposition qui est cette proposition de subsidiarité ascendante, c'est-à-dire l'idée que si les communes le souhaitent, si elles le souhaitent, c'est un droit, ça ne veut pas dire que demain, les communes vont se retrouver à exercer toute une série de compétences. Si elles le souhaitent, elles doivent pouvoir exercer au plus proche des gens des compétences. Je vous donne un exemple, c'est la compétence eau. En fait, il y a 5 ans, la compétence eau a été transmise aux communautés de communes. Dans les communautés de communes, la façon dont Emmanuel Macron les a dessinées, le but, c'était de vassaliser des petites communes auprès des grandes villes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des périodes estivales où les petites communes qui ont beaucoup d'agriculteurs ne sont pas capables d'avoir accès à l'eau pour faire vivre l'agriculture, qui est quand même un élément fondamental de notre économie et puis de la vie quotidienne des personnes. Donc ça, on veut que cette situation s'arrête, on veut rétablir de l'équilibre et de l'efficacité dans notre pays et arrêter cette course à la centralisation, tant dans les mains du gouvernement que des grandes villes.
Clara Hegger, cette proposition que vous portez fait que vous avez un programme d'une simplicité infinie, d'ailleurs c'est presque rafraîchissant. Vous n'avez que 2 propositions programmatiques qui tournent autour justement de cette modification de la Constitution, et après vous faites confiance aux Français. Avez-vous le sentiment que cette année, enfin que l'année prochaine, en 2027, vous aurez les 500 signatures qui vous permettront de participer vraiment au débat républicain?
Alors je vais répondre à votre question immédiatement et je vais reprendre sur un point. On est vraiment les seuls candidats qui ont un projet qui colle dans les clous de ce qu'un président de la République peut faire. Et ça, je voudrais le souligner parce que vous avez parlé effectivement de rétablir l'équilibre, donc redonner du pouvoir aux citoyens vis-à-vis du gouvernement, redonner du pouvoir aux maires vis-à-vis des villes et de Paris. Et le troisième aspect, c'est que nous, en fait, on a une candidature qui est une candidature présidentielle. Nous, on respecte les règles du jeu. Nous sommes des citoyens qui avons subi les excès de pouvoir. Donc nous, on sait qu'une figure présidentielle, c'est une figure d'arbitrage. Donc si vous voulez, notre programme, si vous le regardez, il couvre l'intégralité des sujets. On parle d'économie, on parle de migration, on parle de transition écologique, on parle de sécurité. Mais on en parle avec la focale de ce que ferait un président de la République. Et un président de la République n'est pas un super Premier ministre. Ça, c'est le principal problème dans notre pays. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui n'a plus la majorité à l'Assemblée et qui se découvre complètement dépourvu. Il ne sait plus du tout, en fait, quelle est sa fiche de poste. Eh bien, il aurait dû la lire en première instance. Parce que sa fiche de poste, c'est la fiche de poste d'un président pour l'intégralité des Français qui est au-dessus des partis et qui arbitre. Quand il sent qu'il y a une tension entre les différents pouvoirs, il convoque un référendum. Il est capable aussi de faire des consultations plus larges. Donc ça, c'est un troisième aspect, c'est qu'on a vraiment une candidature à la présidentielle. Donc on parlera de tous les sujets. Et d'ailleurs, dans nos discussions avec les maires, on parle de tous les sujets. mais de la focale d'un président de la République, parce que on a envie, si vous voulez, de nous siffler la fin de la récréation. On a des élus qui, depuis plusieurs années, cherchent à cumuler les pouvoirs. Là, nous font des promesses, nous disent « donnez-moi tous les pouvoirs et on va tout changer ». Et nous, en tant que citoyens, on a dit « non, il faut arrêter ça, en fait. Notre démocratie est trop importante pour qu'on la laisse dans les mains de personnes qui sont des pyromanes, en fait, qui veulent seulement réaliser leurs mesures et peu importe si les autres sont d'accord ou pas ». Donc là, on est parti à la collecte de signatures. C'est difficile, je ne vais pas vous le cacher. Surtout parce qu'on a une municipale qui a été très resserrée vis-à-vis du calendrier présidentiel. Mais on a une équipe extrêmement compétente. Notre équipe de campagne est très élargie. Elle est pilotée par Raoul Mani-Berton. Au parrainage, nous avons Albin Guillot. Et on a déjà aujourd'hui l'engagement de 7 maires. Donc on a commencé il y a 3 semaines. On a déjà 7 maires qui se sont engagés à considérer un parrainage en amont de la présidentielle. Donc on va continuer ce travail. Et bien sûr, si le projet parle, on a besoin de soutien, on a besoin de gens. On a une équipe très dynamique, mais voilà, c'est un grand chantier et on essaye d'aller le plus loin possible aussi dans l'espoir que cette candidature, qui n'est pas à Julien, une candidature témoignage.
Clara Aiguer, merci, ouais. Merci mille fois. Je vous promets que vous reviendrez sur Radio Courtoisie et qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de connexion du début. Donc à très bientôt et très bon courage pour cette belle initiative.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h26 et 5 secondes. Nous allons commencer ce grand entretien avec Charles-Henri Gallois et Alexandre de Gazin nous rejoindra à mi-chemin pour continuer à discuter du RN, parti libéral ou pas.
Ligne droite. Le grand entretien.
Bonjour Charles-Henri Gallois.
Bonjour Richard de Sèze.
Vous êtes conseiller économique de Jordan Bardella au Parlement européen. Donc vous n'êtes pas le seul conseiller économique de Jordan Bardella. Je crois que M. Durvy vient de rejoindre l'équipe. Cette semaine, tout Paris ne bruit que d'un seul bruit. Il a été reçu au MEDEF.
Oui,
Jordan.
Mais c'est quelque chose, quelque part, de naturel. Il a déjà été reçu lors des universités de rentrée du MEDEF et je pense qu'il y a une forme de retour à la normalité, puisque la normalité c'était plutôt que le premier parti de France et de très loin le Rassemblement National ne soit pas invité par les syndicats patronaux. Maintenant cette chose est faite et c'est finalement les syndicats de salariés qui restent les plus sectaires et qui ne parlent pas avec le Rassemblement National. Mais ça me paraît être une bonne chose. Ça permet aussi déjà de présenter le programme économique, parce que quand on parle avec des chefs d'entreprise, en fait, ce dont on se rend compte d'une manière globale, au-delà des potentielles évolutions programmatiques qu'il pourrait y avoir, c'est que déjà, ils ne connaissent même pas le programme de 2022, qui était très différent de celui de 2017. Et ils ne le connaissent pas pour la simple et bonne raison qu'en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine et qu'il n'y a pas eu de campagne. La campagne, rappelez-vous, elle était abominable. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai jamais vu une campagne aussi nulle. Enfin, le président de la République n'avait pas fait campagne lui-même. Et donc, en fait, on n'avait pas pu parler des vrais sujets. La guerre en Ukraine avait tout phagocyté et a d'ailleurs aidé à la réélection d'Emmanuel Macron. Et donc, ne serait-ce que quand on explique les grands fondamentaux programmatiques économiques du RN en 2022, eh bien, on voit bien que effectivement, les chefs d'entreprise se rendent compte, surtout par rapport à la catastrophe qui est le bilan d'Emmanuel Macron et ses affidés Gabriel Attal et Édouard Philippe, on se rend bien compte en réalité, et nous c'est ce qu'on pense, que le programme du Rassemblement National est le plus pro-entreprise et pro-croissance de tout le spectre politique français, ou du moins de tous ceux qui ont une probabilité de gouverner devant le pays.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur le programme. Je voudrais repartir d'abord justement de la manière dont le MEDEF décide enfin de vous recevoir. Le MEDEF avait toujours appelé à voter contre le FN, et puis il a appelé à voter contre le RN, en privilégiant des candidats beaucoup plus efficaces économiquement. Emmanuel Macron, par exemple, dont la réussite économique est absolument stupéfiante. Pour citer d'ailleurs un des membres d'Entreprises et Cités, qui est un think tank, un groupe de pensée qui circule autour du MEDEF, la France est à la veille d'une crise économique forte et la campagne risque de se faire, la campagne présidentielle, sous le regard des agences de notation et du FMI. Donc merci Emmanuel Macron d'avoir été aussi brillant et merci MEDEF d'avoir été aussi intelligent dans le choix du candidat. Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, avait toujours refusé d'ailleurs de recevoir le Rassemblement National. là, ça y est, la décision du MEDEF d'inviter toutes les têtes de tous les partis, sans exception, a été prise à l'unanimité. Donc, le Rassemblement national fait partie, évidemment, des partis qu'on doit recevoir. Patrick Martin a expliqué que ce n'est pas le MEDEF qui a porté le RN à 35% du corps électoral. La presse, au lieu de se rendre compte qu'il est normal qu'effectivement le parti le plus important soit reçu, explique ça y est, c'est une opération de séduction, c'est une opération de normalisation. Il y a même des patrons qui sont très inquiets. Ils sont en train d'expliquer qu'on est en train de faire le lit du fascisme juste parce qu'il y a un syndicat patronal qui reçoit le RN avant de recevoir Fabien Roussel du PC. Pourquoi ce délire ?
Oui, j'ai vu d'ailleurs le responsable de la Maïf qui est plus militant qu'assureur, qui expliquait que vous rendez compte, effectivement, on fait la lie du RN, et donc si le RN passait, ce serait la ruine. Mais ce monsieur, en fait, j'ai regardé, il a appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2017.
Et la France n'a pas l'air d'être...
Et la France a 1300 milliards d'euros de dettes en plus, et surtout, il faut quand même resituer dans le contexte, parce que j'entends maintenant que ce soit... Édouard Philippe qui s'est fendu d'un tweet en soutien des entreprises hier, enfin un LinkedIn sur lequel on pourra revenir, un post LinkedIn, etc. Il y a toujours la même chose. De toute façon, on vous explique, les macronistes, on est les meilleurs, avec une arrogance folle. Ils continuent à donner des leçons d'économie et ils vous expliquent, de toute façon, ce n'est pas de notre faute. Soit c'est de la faute des Français, soit c'est de la faute du Covid et de la guerre en Ukraine. Mais ce que je dis souvent, moi, c'est que c'est bizarre parce que les autres pays européens, ils ont vécu le Covid. Ils ont vécu la guerre en Ukraine et pourtant, ils n'ont pas la même trajectoire. Le ratio qu'on regarde, quand on regarde la dette publique, c'est le ratio dette publique sur PIB. Bah, bizarrement, entre le deuxième trimestre 2017, quand notre Mozart de la finance est arrivé au pouvoir, et là, on a eu les chiffres hier d'Eurostat à fin 2025, ce ratio dette publique sur PIB au sein de l'Union européenne, il a baissé de 2,4 points. Malgré la performance absolument abominable de la France. Et la France, il a augmenté de 15 points. Il n'y a pas un pays en fait en Europe qui fait pire. Si on regarde les grands pays, celui qui se rapproche le plus, c'est la Pologne, ils ont augmenté de 6 points. Je veux dire, l'Espagne a baissé, le Portugal a baissé, l'Irlande a baissé, la Grèce a baissé, enfin, l'Allemagne a baissé, l'Autriche a baissé. Et en fait, il n'y a qu'eux. Et ce sont les seuls en fait à se défausser lâchement sur le Covid et la guerre en Ukraine. La réalité, en fait, c'est que ce sont des très mauvais gestionnaires. Déjà, même sur la gestion Covid, on pourra en discuter, parce que contrairement à ce qu'ils disent, ils nous expliquent le RN et d'autres partis demandaient plus de murs, le RN demandait la réouverture de l'économie bien avant, donc ça aurait coûté déjà moins cher. Et je rappelle quand même que la dette dite Covid, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Dussault, donc macroniste, il nous expliquait que ça avait coûté entre 170 et 200 milliards d'euros. Mais il en reste 1100 autres à expliquer pour arriver aux 1300 milliards. Et j'ajoute que dans ces 200 milliards, il y a le bouclier tarifaire de l'électricité qui a coûté quand même, notre cher Bruno Le Maire, 50 milliards d'euros, alors qu'on aurait, ça aurait pu coûter zéro juste en rétablissant un prix national de l'électricité. Mais ils n'ont pas eu le courage de le faire par dogmatisme et par idéologie européiste.
Alors que l'Espagne l'a fait.
Alors que l'Espagne a obtenu effectivement une dérogation jusqu'à début 2023, le Portugal, la même chose. Donc, ils sont plus crédibles, en fait. Et en fait, ça montre quoi, cette idée? Et on reviendra certainement après sur l'idée. Moi, j'aime pas trop les étiquettes libérales, socialistes, etc. Bon, d'ailleurs, la gauche nous accuse d'être ultra-libérale. Et les LR, les macronistes, comme ils ont plus d'arguments, eux nous accusent d'être socialistes. Mais en fait, la remise en cause qu'on veut faire du RN sur l'économie, pourquoi? Parce qu'on a déjà gagné la bataille des idées sur l'immigration et l'insécurité. On l'a tellement gagné parce que même les LR et les macronistes, désormais, parlent quasiment comme le RN sur ces sujets-là, à peu de choses près, parce qu'ils continuent d'enfumer des gens avec l'immigration de travail. Bon, ils parlent comme nous, mais ils agissent comme des macronistes, c'est-à-dire qu'ils battent des records d'immigration chaque année. Il n'y a que la gauche, finalement, qui ose encore dire des choses sur ce sujet-là, mais en fait, c'est même, quand on regarde les sondages, c'est même à rebours de leur propre électorat, donc ils n'ont plus tellement de crédibilité sur ces sujets-là. Bon, comme les macronistes et les LR n'ont plus rien à nous dire sur ces sujets-là, ils savent qu'en gros, on est meilleur qu'eux, on est identifiés, etc. Ben, ils n'ont plus que l'économie pour attaquer. Et ils ne le font non pas sur des réalités, mais ils le font sur des caricatures complètement grossières. Enfin, je veux dire, ce sont les mêmes qui, depuis 9 ans, votent des budgets socialistes, qui expliquerait que le RN serait socialiste en économie. Et c'est à chaque fois avec une mauvaise foi, mais qui marche, si j'ose dire, d'un point de vue communicationnel. En fait, ils se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent, parce que le RN a proposé un contre-budget qui baissait à la fois la dépense publique et la fiscalité, et donc ils vont se raccrocher à quelques votes lors du budget qui vont monter en épingle pour nous expliquer que le RN serait socialiste. Alors, c'est le grand truc, ils n'ont plus que ça à la bouche, et ça marche, hein, y en a qui le reprennent, mais sans regarder le reste. Ils parlent de deux votes, deux amendements. C'est, ils nous expliquent le fameux, ils ont voté 34 milliards de nouvelles hausses d'impôts en 24 heures. Bon, déjà, c'est un peu partiel de parler de deux amendements alors qu'il y en a eu 25 000. Moi, j'aimerais qu'on parle des autres, parce qu'ils ne parlent jamais des 45 milliards de baisses d'impôts que le RN a proposées par amendement, notamment la baisse de l'impôt de production de la C3S qui avait été validée par l'Assemblée, mais les macronistes sont revenus dessus après, sur une baisse de la fiscalité. Et ces 34 milliards, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? En réalité, ce ne sont même pas de nouveaux impôts. Il y en a pour 26 milliards d'euros, c'était pas un nouvel impôt, c'était un mécanisme de lutte contre la fraude fiscale des multinationales étrangères. En sachant en plus que d'ailleurs c'est une mesure qui n'est même pas dans le contre-budget, parce que c'est plus symbolique, un objectif, autre chose, parce qu'il faut renégocier toutes les conventions fiscales avec les autres pays pour que ce soit mis en place. Donc il est évident que c'est pas quelque chose qui sera arrivé, mais le principe c'est quoi? Le principe c'est de dire, est-ce que c'est normal qu'une multinationale américaine, par exemple, qui est installée dans le Delaware comme Starbucks, paye 0% d'impôt sur les sociétés, quand votre petit café du coin, lui, paye 25%. Ben, ceux, en fait, qui hurlent à ce qu'on ait voté ça, j'aimerais qu'ils assument devant les Français qui trouvent ça normal. Moi, je ne pense pas. Et en plus de ça, s'il y avait ce mécanisme-là, ça permettrait par ailleurs de baisser encore davantage les impôts de production pour toutes les entreprises qui produisent en France et qui jouent le jeu. Donc oui, ça avait été voté. Et l'autre point, c'était pas un nouvel impôt, c'était la transformation. D'ailleurs, c'est un amendement du Modem. On a connu plus socialiste que le Modem, même si bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, sur l'impôt sur la fortune immobilière. Et ça, c'était le terme du Modem. C'était pas notre thème, d'ailleurs, qui remplaçait ça en impôt sur la fortune dite improductive. Il faut savoir que l'impôt sur la fortune immobilière, ça comprend 186 000 personnes. Cette transformation, ça ne comprenait que 150 000 personnes, avec une assiette un peu plus large. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce que voulait le Rassemblement National depuis longtemps. Il y avait un abattement bien supérieur sur la résidence principale qui fait qu'il y a des classes moyennes supérieures qui ne sont pas forcément très fortunées mais qui ont des biens immobiliers qui payent l'IFI et avec ça, ils sortaient de l'IFI. Donc en fait, ça concernait moins de personnes. Donc vous vous rendez compte qu'on a été attaqué matin, midi et soir par des gens de mauvaise foi pour deux votes. Mais ils ne parlent pas des 45 milliards de baisse d'impôts, ils ne parlent pas des 50 milliards de baisse de la dépense publique que proposait le RN. Donc en fait, on voit bien qu'ils sont dans une... Ils n'ont plus que ça. Donc évidemment qu'ils vont essayer à chaque fois d'aller sur cet aspect de crédibilité économique. Mais entre nous soit dit, vu leur bilan et ce qu'ils proposent, il n'y aura pas de souci pour débattre avec eux sur l'économie. Hein.
Tout à fait. Je voudrais juste rappeler un chiffre. Donc le déficit public n'est que de 5,1% du PIB, ce qui est absolument énorme.
Le deuxième de la zone euro.
Voilà, au lieu de 5,4% et uniquement parce que l'État français a réussi à prélever 51 milliards d'euros d'impôts de plus sur l'économie, surtout sur les entreprises. Voilà, 51 milliards d'euros prélevés par la France en 2025 sur les entreprises. Donc logiquement, les entreprises devaient être, assez agréablement surprises, mais on ne sait pas comment elles ont réagi, quand vous avez proposé au RN un grand projet pour avoir des ordonnances de simplification.
Bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie tricolore, c'est-à-dire que la simplification, notamment normative, il faut quand même savoir que le coût des normes, le coût d'application des normes pour l'économie française, selon l'OCDE, c'est à peu près 6,7% du PIB, c'est quasiment 120 milliards d'euros par an. Ça a augmenté d'ailleurs cette inflation normative sous Emmanuel Macron, puisque ce coût d'application des normes, il a augmenté de 30 milliards d'euros depuis 2017. Donc quand les gens vous disent qu'Emmanuel Macron a fait une politique de l'offre parce qu'il a un peu baissé les impôts de production au début, nous on dit que c'est absolument pas vrai. Parce que ce qu'il a rendu d'un côté un tout petit peu en impôts de production, il l'a repris de l'autre avec l'inflation normative, qui coûte très cher, en fait, pour l'économie.
Alors, juste pour les auditeurs de Radio Courtoisie, les impôts de production, ce sont des impôts qui pèsent sur les entreprises et qui sont décorrélés du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, il suffit d'avoir une entreprise pour être frappé d'un certain nombre d'impôts, donc qui ne tiennent absolument pas compte de votre activité économique.
Qui ne tiennent pas compte de la profitabilité, du bénéfice, effectivement. Voilà. Donc, c'est des impôts subis. Et en France, on a, en pourcentage du PIB, des impôts de production qui sont le double quasiment de la moyenne de l'UE, et c'est encore plus quand on se compare à l'Allemagne. Donc c'est des impôts qui sont toxiques pour la production, et c'est pour ça que le RN d'ailleurs propose dans son programme de baisser de 20 milliards d'euros les impôts de production. Et en fait, c'est un point intéressant. Emmanuel Macron, en fait, par ses impôts de papier, n'a pas fait, contrairement à ce qu'on nous dit, de politique de l'offre. Il a contribué à cette inflation normative délirante, et j'ajoute que ça avait commencé d'ailleurs sous Édouard Philippe, qui, je vous l'ai dit hier, a fait sa lettre sur LinkedIn en disant on a simplifié l'économie, etc. Édouard Philippe, c'est quand même lui qui a fait, au-delà des 80 000 km/h dont tout le monde se rappelle, et des mesures complètement délirantes et liberticides pendant le Covid, c'est lui qui a fait des normes de type DPE qui est en train de ruiner le marché immobilier, le logement. C'est lui qui avait fait les ZAN qui empêchent évidemment là aussi le logement et même l'installation d'ailleurs d'usines en France.
Donc DPE, le diagnostic de performance énergétique, ZAN de zéro artificialisation nette.
Exactement.
Voilà, donc,
Et les ZFE, vous savez, ce processus qu'on a voté d'ailleurs pour supprimer à l'Assemblée nationale grâce au RN de ségrégation sociale en empêchant les gens en fait de se rendre dans les grandes villes avec leur voiture. Eh bien, en fait, tout ceci, comme on l'a dit, a un coût, et ça fait des années qu'on parle de simplification, mais ça n'a jamais été fait. Alors évidemment que nous, on a déjà identifié tout un tas de normes toxiques, mais je veux dire, il n'y a personne qui connaît mieux les normes qui nuisent à son activité que les chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont lancé ce grand travail de recensement, cette stratégie tricolore, qui est de dire, bah, allons voir branche par branche les secteurs économiques, et on arrive avec trois dossiers, le dossier vert, le dossier orange et le dossier rouge. Le dossier vert, c'est-à-dire bah, toutes les normes qui, par exemple, sont protectrices du consommateur, de la sécurité qu'il faut garder, bah, on les met là. Les oranges, c'est des normes qui, sur le principe, partaient avec un bon état d'esprit, mais parfois l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, mais qui, concrètement, tel que ça a été rédigé, est un frein à l'activité économique, et donc il faudrait les revoir, il faudrait les réécrire. Donc ça, on met ça dans le dossier orange. Et le dossier rouge, pour le coup, c'est toutes les normes qui sont toxiques, nuisibles, et qu'il faudrait supprimé par décret dès l'arrivée au pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail de recensement pour avoir réellement cette simplification normative dont les autres ne parlent pas. Et ça, c'est une manière, finalement, de redynamiser l'économie sans que ça coûte 1 euro à l'État. Donc, c'est effectivement quelque chose, je pense, qui est attendu, d'ailleurs, pas seulement par les entreprises, parce qu'il y a des normes, encore une fois, qui nuisent aussi directement aux particuliers. J'en ai évoqué deux, notamment Norme Edouard Philippe, comme les ZFE et les DPE. Je pense que tous les Français seraient ravis que ces normes soient supprimées.
Alors, je reçois Charles-Henri Gallois, donc conseiller économique de Jordan Bardella au Parlement européen, et tout à l'heure, Alexandre de Galzin va nous rejoindre, nous sommes déjà réunis. Vous êtes allé rencontrer donc le MEDEF, le syndicat des grosses entreprises, qui ont un rapport particulier à l'économie, parce que elles ont tendance à être capables d'influencer en fait les politiques gouvernementales. On sait que le ministère de l'économie et des finances n'adore rien tant que les gigantesques, et au contraire ne déteste rien tant que les petits. Le président de la CPME, donc un des deux autres syndicats patronaux, a expliqué que Sébastien Chenu lui avait dit qu'il connaissait très bien le monde de l'artisanat et donc qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'aller tout de suite les voir. Est-ce que Jordan Bardella compte aller visiter des autres syndicats patronaux ?
Oui, mais c'est une possibilité.
Donc CPME et U2P.
C'est bien sûr une possibilité. De toute façon, le RN et amener demain à gouverner. Donc c'est pas une question, comme je l'ai lu, ni de se soumettre, ni d'être en défi, etc. C'est que si vous êtes amené à aller aux responsabilités, c'est des gens avec qui vous devrez de toute façon échanger et travailler. Donc il est bien naturel de le faire. Et encore une fois, nous, au RN, on n'a jamais opposé, on n'est pas dans une vision marxiste, mais on n'a jamais opposé le salarié au chef d'entreprise. On considère que les deux sont une réponse évidemment au défi au redressement de la France. On n'a jamais opposé la grande et la petite entreprise. Donc, effectivement, on parle avec les entreprises, ça me paraît normal, ça me paraît sain, et je pense que c'est même très bien de les associer justement sur ce travail de simplification normative. Et encore une fois, les associer, ça ne veut pas dire tout prendre non plus. Évidemment que ça va être regardé, et que d'ailleurs, il faut regarder, les entreprises n'auront pas à avoir les mêmes réponses à telle ou telle norme. Donc il faut avoir après un travail de tri, de sélection, d'arbitrage qui doit être fait. Ça ne veut pas dire là aussi tout prendre sans réfléchir, bien entendu.
Ce travail sur les normes, il est absolument fascinant parce que, par exemple, on vient de nous expliquer, par la bouche d'Emmanuel Macron et de ses ministres, qu'ils avaient une idée géniale, c'était de faire en sorte de sélectionner quelques dizaines d'entreprises et d'appliquer la méthode Notre-Dame, c'est-à-dire de faire sauter eux-mêmes tous les verrous administratifs que l'État français a mis en place, dont ils se sont rendus compte qu'ils étaient absolument pourris, mais de le réserver uniquement à une petite élite. Et on s'est rendu compte qu'en 2023, ils nous avaient déjà fait le même coup. Et même avant 2023, en fait, tous les 2-3 ans, il y a une opération de communication de Macron et de ses ministres qui explique qu'on a une idée géniale, on va faire en sorte de simplifier tous les processus, on va faire en sorte d'accélérer les processus de décision ministérielle, mais uniquement pour 100 entreprises ou 150. Voilà. Et donc,
c'est assez dirigiste pour le coup, et c'est l'État qui sélectionne les 150 projets. Bon, c'est amusant en fait sur beaucoup de dossiers, mais Macron semble se réveiller après 9 ans de pouvoir. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut en profiter pour battre le mythe de la réindustrialisation que les macronistes nous vendent ad nauseam depuis maintenant 9 ans. Quand vous regardez les chiffres, c'est pas vrai. La production manufacturière, encore une fois, entre le début de mandat d'Emmanuel Macron et maintenant, elle est inférieure de 7%. Elle est inférieure au niveau pré-Covid, donc il n'y a pas eu de réindustrialisation. Au mieux, il y a eu un ralentissement de la désindustrialisation, mais il n'y a pas eu de réindustrialisation. Sur ce projet, c'est très bien, évidemment, qu'il y a plein de verrous, mais le problème, encore une fois, c'est que lui sélectionne les 150 projets qui sont l'exception, là où, en fait, ça devrait être la norme. C'est-à-dire que ce régime d'exception et finalement ces dérogations à toutes ces normes écrasantes, étouffantes et délirantes, ben, en fait, ils devront en faire profiter l'ensemble de l'économie et l'ensemble des entrepreneurs. C'est ça le sujet. Et le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas ce qu'il fait. Il fait son espèce de truc très dirigiste. Ça me fait, c'est toujours le saupoudrage macroniste. C'est la même chose, là, vous voyez, sur le carburant. Alors, ils vont filer des chèques à droite, à gauche. Donc, c'est eux qui sélectionnent avec des critères qui sont en plus très restrictifs. Quand vous mettez comme critère qu'il faut gagner moins de 17 000 euros net, c'est-à-dire moins que le SMIC, un chèque que personne ne va toucher. Donc, en réalité, c'est ça, plutôt que de baisser de manière générale les taxes, comme le font quasiment l'intégralité de nos voisins européens, l'Irlande, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, etc. Ils le font tous, sauf la France.
Alors, Patrick Pouyanné, paraît-il, lors de ce dîner, le déjeuner du MEDEF, aurait expliqué à Marine Le Pen, donc on ne parle pas du déjeuner avec Jordan Bardella, mais du déjeuner avec Marine Le Pen, que baisser les taxes sur le carburant était une sottise. En tout cas, c'est ce que la presse raconte.
Je ne sais pas s'il a dit ça. Moi, j'ai vu d'autres personnes, j'ai vu Michel-Édouard Leclerc qui disait qu'il fallait suspendre les CE, ce qui revient à baisser les taxes de 17 centimes, ce qui est la même chose. Et c'est une sottise, tous les gouvernements européens alors seraient bêtes. C'est un peu ce que nous disent les macronistes. Moi, je ne crois pas, c'est la seule façon viable, vous savez, de rendre de l'argent aux Français. C'est pas la politique des chèques, des tickets de rationnement comme ils nous font, c'est la baisse des taxes. Et au contraire, la baisse des taxes est efficace et les études économétriques dans les autres pays montrent que c'est rendu à 99% aux consommateurs. Donc je vois pas en quoi ce serait stupide. Si vous voulez, c'est stupide de le faire, étant donné qu'il n'y a plus de marge de manœuvre financière parce qu'on a un gouvernement et les macronistes qui ont saccagé l'économie française et les finances publiques. Et oui, ça serait stupide de le faire sans économie en face. Mais nous, ce qu'on propose, c'est pas juste de baisser les taxes comme ça et qu'il y ait de l'argent magique. L'argent magique, c'est eux qui le distribuent depuis 9 ans. Nous, c'est de dire, vous baissez les taxes, mais vous baissez en parallèle la mauvaise dépense publique pour que ça soit neutre, justement, pour les finances publiques. Donc, si vous faites ça, je vois pas en quoi ça serait une stupidité, bien au contraire, surtout que le gouvernement qui nous explique, enfin, ça c'est le grand truc, on va faire de l'électrification, alors que c'est un truc qui a un résultat à moyen long terme et qui a une situation d'urgence, et en plus de parler d'électrification, quand ce sont les mêmes qui viennent de sortir le projet pluriannuel de l'électricité qui va augmenter à la fin les coûts de l'électricité parce qu'ils empilent des capacités de production alors qu'on est déjà en surcapacité, ce sont des gens qui sont complètement incompétents et qui se moquent du monde. Donc si ces gens-là vous disent que ça va pas marcher, moi, je pense qu'on devrait plus être confiant sur le fait que ça a marché, étant donné les résultats depuis 9 ans.
Absolument. On est en face d'un pays ruiné, avec des gens qui passent leur vie à vouloir distribuer de l'argent à l'étranger ou à augmenter dans des proportions ahurissantes la facture énergétique. On va faire une petite pause là maintenant tout de suite parce que depuis tout à l'heure on parle d'argent et ça tombe bien. Vous savez que Radio Courtoisie est une radio financée uniquement par vos dons. Voilà, nous ne prélevons aucune taxe, nous n'imposons absolument rien, sinon notre ligne éditoriale. Comment faire pour que cette belle aventure entrepreneuriale continue
Alors si vous souhaitez aider Radio Courtoisie, et je vous engage vivement à le faire, puisque votre soutien financier est, est la garantie de notre indépendance, je vous invite donc à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, ou bien encore d'envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous accueillons Alexandre de Galzin pour continuer cette conversation avec Charles-Henri Gallois sur le programme économique du Rassemblement National. En 2022, vous aviez un programme économique dont personne n'a pu discuter. Emmanuel Macron poursuit un quinquennat absolument déplorable et ajoute 4 ans de ruine économique au pays. Évidemment, votre programme en 2027 a changé et ça fait partie des reproches qu'on vous fait. Vous avez changé d'avis, en fait c'est la situation de la France qui a changé.
Alors pour le moment le programme de 2027 n'a pas été publié et les grands axes qu'on défend, je veux dire, sont assez proches. Il y a le contre-budget qui va encore plus loin, effectivement, en termes de baisse de la dépense publique, parce que la situation financière s'est dégradée, donc ça demande plus d'efforts, mais les grands axes qu'on avait sont toujours d'actualité. Le grand problème de la France, c'est qu'on est en situation de trappe à dette. En gros, on emprunte à 3,6-3,7%. Vous avez une croissance qui est réelle de moins de 1%. Et là, à l'heure actuelle, bon, l'inflation a remonté. On était à 1, on est à 2. Donc, ça veut dire qu'en croissance nominale, si on est à 2% d'inflation, on est à 3% de croissance nominale. Donc, vous êtes en trappe à dette et de telle sorte que vous allez droit vers la faillite. Quand vous êtes en trappe à dette, vous avez... trois leviers. Vous avez effectivement le levier inflationniste, mais sauf que ça, c'est les Français qui le payent. Et malheureusement, l'inflation va augmenter avec la guerre en Iran. Vous avez le taux d'intérêt. Bon, ça, c'est la BCE qui le décide. Et vous avez la croissance. Et évidemment, nous, on a un programme pour relancer la croissance avec la baisse de la fiscalité, notamment la baisse des impôts de production, avec la simplification normative dont j'ai parti, avec le rétablissement d'un prix national d'électricité qui bénéficie à la fois aux particuliers et à la compétitivité d'entreprise, avec la priorité nationale sur les commandes publiques. Hein, les commandes publiques, c'est quand même 150 milliards d'euros de marché par an, donc on veut le réserver aux entreprises qui produisent en France. Et vous avez aussi le fameux fonds souverain qu'on veut lancer pour que les Français puissent être actionnaires de la Maison France, bien évidemment sur la base du volontariat, qui va permettre de financer les PME, TPE, ETI, qui souvent sont des entreprises qui ont des gros besoins de financement avec des banques commerciales qui font de moins en moins leur travail. Donc nous, on pense qu'avec, évidemment, après il y a des mesures de détail et autres, qu'avec les 5 grands leviers qui existaient dans les grandes lignes en 2022, on est en capacité en fait de relancer justement la production et la croissance en France, ce qui est essentiel si on veut s'en sortir.
Charles-Henri Gallois, il y a plusieurs points moi, qui m'intéressent un petit peu dans les problèmes actuels et sur lesquels je crois que le Rassemblement National, enfin, j'ai pas lu de position claire en tout cas, donc peut-être que c'est dans le programme en préparation pour 2027. Déjà, l'éléphant dans la pièce, dont personne ne parle parce que c'est trop dangereux quelque part, c'est la question des retraites. La question des retraites, c'est entre 25 et 30% du budget de l'État, c'est-à-dire que sur 1 000 euros dépensés par l'État, 25 à 30 euros directement dans les retraites. J'ajoute que aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs en moyenne, hein, bien sûr, et que les retraités touchent toujours en moyenne 2,5 fois ce qu'ils ont cotisé. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Je ne dis pas évidemment sur les petites retraites qu'il faut préserver, mais au moins sur les grosses retraites, on sait que, ne serait-ce que dans la fonction publique, mais même d'ailleurs aussi dans le privé, en réalité, aujourd'hui, on est dans une situation démographique particulièrement compliquée, 1,7 actifs par retraité. Comment on fait pour payer des retraites à 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros qui, finalement, en fait, aujourd'hui, creusent particulièrement le déficit?
Alors, c'est 25% de la totalité des dépenses publiques, les retraites. Après, le sujet des retraites, les gens, que vous le vouliez ou non, ils ont cotisé. Je pense qu'il y a un gros problème à l'heure actuelle d'actifs, pour le coup, plus que même des niveaux de retraite qui ne touchent pas assez, qui ne gagnent pas assez. Et il y a la quantité de travail pour financer aussi ses retraites. Parce que la France, on a, contrairement à d'autres pays, les jeunes qui arrivent très tard sur le marché du travail.
Oui, mais vous n'allez pas faire rentrer des millions de personnes sur le marché du travail pour rééquilibrer du jour au lendemain, ou alors ça s'appelle l'immigration. Mais
vous avez 6 millions de chômeurs en France.
Oui, mais vous pensez pouvoir faire rentrer 6 millions de chômeurs sur le marché du travail ?
Non, pas 6 millions, mais ne serait-ce que si vous faites rentrer 1 million de personnes sur le marché du travail, votre problème est solutionné très facilement. Donc il y a un problème de quantité de travail en France, ça c'est certain. Et vous avez aussi un système qui, à l'heure actuelle, et il faut le dire, injuste. Si vous prenez la réforme Macron, quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, comme il y a cette notion d'âge légal à 64 ans, il va devoir cotiser pendant 46 ans. Ouais. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 30 ans, il va ne cotiser que 37 ans parce que vous partez automatiquement à taux plein 67 ans. Donc je pense que dans le système actuel, notamment avec cette question-là, vous avez un système qui est profondément injuste, illisible, et finalement, cette personne qui a cotisé 37 ans, il y a un problème de quantité de travail.
Alors, vous voyez, c'est typiquement la question qui a été posée, je pense, 250 fois au RN durant toutes ces campagnes. Quel est le programme du RN sur l'âge de départ à la retraite ?
Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas à trancher, le programme n'est pas encore sorti. Ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra sur la réforme Macron qui, encore une fois, comme je l'ai dit, est injuste, parce qu'à l'heure actuelle, il faut avoir conscience, quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans, il cotise 46 ans, quelqu'un qui commence à travailler à 30 ans, il cotise que 37 ans.
Surtout que les personnes qui commencent à travailler à 18 ans, généralement, c'est plutôt des métiers manuels, donc plus difficiles.
Donc il y a une forme d'injustice, et quelque part, vous n'avez pas la quantité de travail nécessaire, parce que celui qui a travaillé que 37 ans, il y a un problème, il a cotisé très peu pour avoir le droit, en réalité, à une retraite à taux plein.
Le parti, enfin non pas le parti, les Actifs Anonymes, qui est un groupement, ont répondu à un sondage et on s'est rendu compte justement que ce parti RN dont on dit qu'il est socialiste et qu'il est entièrement tourné vers la défense des petits et des assujettis, etc., était en fait un parti très largement plébiscité par les actifs, justement, ceux qui travaillent.
Sûr. C'est de très loin le premier parti... Le premier parti des actifs, c'était déjà le cas d'ailleurs en 2022. Le RN est numéro un de très loin chez les chefs d'entreprise. Le RN est numéro un chez les ouvriers, chez les employés. Vous prenez les classes d'âge d'actifs, la France qui produit, le RN est de très loin le premier parti de France, et parfois avec des scores bien supérieurs à 50%. Donc ça m'amuse, ceux qui sont là avec cette attaque du RN qui serait socialiste, ou ceux qui se revendiquent libéraux. Bon, déjà, moi, ceux qui se revendiquent libéraux en économie, le libéralisme, à la base, c'est une philosophie. C'est une philosophie, c'est avant tout une doctrine juridique qui est de garantir les libertés individuelles, notamment garantir le droit de propriété. Donc, c'est essentiellement ça, le libéralisme économique. Moi, je suis avant tout en pragmatique en économie. En fait, je me revendique pas dans les canons de celui de libéralisme. Quand vous êtes à 50% de dépenses publiques du PIB et 46% de prélèvements obligatoires, et vous êtes déjà recordman du monde des prélèvements obligatoires, la rationalité, le pragmatisme, c'est pas d'augmenter encore les prélèvements obligatoires, c'est de baisser la dépense publique. De la même façon que si on était à 30% seulement du PIB en dépense publique et qu'on était au-dessus, on pourrait dire qu'on a plus de marge de manœuvre et qu'il faut aller à fond dans l'investissement. Donc évidemment, c'est une question de pragmatisme aussi l'économie. Et j'ajoute que ceux qui se revendiquent comme des libéraux, moi ça m'amuse. On parle beaucoup en ce moment de David Lisnard. Enfin, c'est le même qui désinfectait les plages à Cannes, qui voulait surveiller les citoyens pendant le Covid avec des drones. Si c'est ça le libéralisme en France, excusez-moi. Ou monsieur Kasbarian qui se découvre libéral après 9 ans de macronisme, c'est le même qui a voté le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, qui a augmenté la CSG, donc qui taxe les petits épargnants, qui taxe justement le patron qui se rémunère par dividende. Et c'est le même aussi, que c'est dans ce PLFSS où il y avait le rabot sur le cumul emploi-retraite. Donc ces gens-là, c'est des libéraux, ça ? Enfin, excusez-moi, c'est ridicule.
Justement, une question dans ce sens-là aussi, c'est la question des aides aux entreprises. C'est-à-dire que y a eu donc un rapport qui est sorti l'année dernière sur les aides aux entreprises. Ça représenterait 200 milliards d'euros si on compte aussi les avantages fiscaux qui sont donnés. On a du mal à comprendre en France comment on se retrouve dans une situation où, d'un côté, il y a énormément de normes, de contraintes et de une fiscalité assez lourde qui pèse sur les entreprises. Et d'un autre côté, on leur donne 200 milliards d'aide ou de subventions ou de cadeaux fiscaux quelque part.
Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ces 200 milliards.
Non, mais bien sûr, mais dans le fond, en tout cas, même si on enlève tous les avantages fiscaux, on redescend à 100 milliards, ce qui est quand même une somme particulièrement conséquente. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux simplement baisser les impôts et supprimer les aides en parallèle ?
Ça peut être bien sûr une solution, mais ce qu'il faut regarder, c'est en net. Et en net, les entreprises françaises restent plus imposées malgré ces 211. Alors, le chiffre est contesté, mais peu importe le chiffre, même si vous réintégrez ces 211 milliards, la France taxe beaucoup plus ses entreprises que l'Allemagne ou que la moyenne de l'Union européenne. Donc vous pouvez taxer encore plus si vous voulez, c'est les solutions magiques de la gauche, vous taxez, vous taxez, vous taxez. Mais à la fin, si vous n'avez plus d'entreprise, vous n'avez plus d'emploi, vous allez financer comment votre modèle social ? Mmh. Et donc c'est tout ça en fait qu'il faut avoir en tête. Et dans ces 211 milliards, il y a notamment des allègements justement sur le coût du travail pour permettre l'embauche, notamment le SMIC, où il y a beaucoup d'allègements de cotisations sociales au SMIC, ce qui a permis de créer, de créer aussi des emplois. Donc il faut savoir ce qu'on veut, vous pouvez les supprimer, vous allez aussi supprimer des emplois. Donc c'est un peu plus compliqué, si vous voulez, l'économie, que juste se dire vous faites des cadeaux aux riches, il faudrait taxer les entreprises, etc. Mais en fait, le problème, c'est que si les gens partent, vous n'avez plus de base taxable.
Et est-ce que justement, pour éviter que les gens partent, il faut subventionner les entreprises qui sont devenues plus très compétitives en France ? Je pense notamment, par exemple, à des entreprises comme ArcelorMittal, même de manière générale, de nombreuses entreprises industrielles en France. Les libéraux, justement, les libéraux pur jus, expliquent que finalement, dans tous les cas, c'est plus rentable. Donc, il ne faut pas subventionner les entreprises qui sont plus rentables et leur donner un coup de main. Il faut les laisser disparaître et se reconcentrer sur d'autres systèmes qui pourraient être rentables pour la France. Sur justement ces industries un peu lourdes françaises, je pense même à Duralex, par exemple, ou à d'autres entreprises de Made in France, comme on dit, qui sont un peu aussi une part de notre identité. Mais comment on fait à partir du moment où elles sont dans une situation économique effectivement compliquée? Est-ce que l'État doit les nationaliser, les aider? Quoi la philosophie générale, on va dire?
Moi, je suis pour plus de simplification, plus de liberté pour les entreprises, mais là où, encore une fois, pareil, je suis pragmatique, moi je suis aussi souverainiste, se pose la question aussi de l'autonomie et se pose la question du protectionnisme. Et ça vous a pas échappé que j'étais par exemple opposé à l'accord de libre-échange avec le Mercosur et que le RN n'est pas partisan, évidemment on n'est pas pour l'autarcie, mais on n'est pas partisan du libre-échange sans limite avec tous les pays du monde, notamment les pays qui sont très loin en termes de normes sociales, environnementales, et donc qui créent une concurrence déloyale. C'est la concurrence déloyale, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour l'entreprise, et plutôt que je ne suis pas favorable moi, aux subventions, aux chèques, etc., on peut envisager pour des secteurs qui peuvent disparaître s'ils sont évidemment stratégiques pour l'économie, et l'acier dans l'industrie, c'est qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de stratégique, on peut envisager des protections douanières, ce qui est très différent de subventions. Ce que font d'ailleurs beaucoup d'autres pays du monde, je veux dire, si vous voulez vous protéger, même les pays asiatiques, quand ils ont lancé leur croissance, ils l'ont fait à la base en se protégeant. Donc il n'y a pas de tabou avec ça.
Ils l'ont fait en se protégeant et en décidant d'une espèce de planification et de programmation de l'économie, exactement comme un modèle gaullien où on décide qu'on va construire une industrie nucléaire, et évidemment... on ne peut pas garantir immédiatement une rentabilité, donc il y a une forte dépense d'État et il y a des entreprises qui sont incitées à y participer, voire fortement incitées.
Le gaullisme, c'est vraiment le pragmatisme. Et d'ailleurs, De Gaulle, c'est marrant, c'est un peu comme le RN à l'époque. De Gaulle, vous aviez ceux qui se revendiquaient comme libéraux qui allaient taxer de limite de socialistes et les socialistes qui allaient taxer de libéral. Parce que De Gaulle, c'est à la fois... les grands projets stratégiques qui ne sont pas d'ailleurs forcément tous menés par l'État. Il y a parfois juste une protection et c'est le privé qui le fait. Ça n'a pas nécessairement l'État qui doit le faire. Mais De Gaulle, c'est aussi le plan Pinet-Rueff de redressement drastique des finances publiques. Il y en a beaucoup qui se revendiquent du gaullisme aujourd'hui, qui l'oublient que De Gaulle, c'était les comptes bien tenus aussi avant tout. Il n'était pas dire bah, on rase gratis, on peut faire ce qu'on veut, etc. Non, De Gaulle, c'était aussi le sérieux, notamment budgétaire. Donc De Gaulle, c'est tout ça. Et je pense que De Gaulle représente bien ce pragmatisme assez français et qui, force est de le constater, a fonctionné sur le plan économique et avec des grandes réussites technologiques et industrielles sur lesquelles on vit encore le TGV, le nucléaire, etc. De Gaulle, après prolongé évidemment par Pompidou, et toutes les grandes technologies quasiment sur lesquelles on vit viennent de cette période-là.
Alors, ces grandes technologies, et même le plan calcul, etc., même l'informatique française, Ce sont des économies de production et on sent que j'ai l'impression que le Rassemblement national est plus du côté d'une relance de l'économie en favorisant les producteurs que d'un accompagnement du déclin en favorisant la consommation, là qui est un modèle purement macronien.
Bah, le RN repose sur ses deux jambes, c'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche parfois, c'est-à-dire que il y a certains dans l'entreprise qui vont dire justement, exactement ce que vous avez dit, pas de baisse de la TVA sur l'énergie, sur les produits de première nécessité, parce qu'en fait, ils voudraient que toutes les baisses ne soient que uniquement sur les entreprises. Mais le RN marche sur ses deux jambes, parce que le RN a conscience, et je pense que c'est le parti le plus identifié à juste titre, en défense du pouvoir d'achat aussi des Français, qui est une réelle préoccupation et qui, je pense, sera la première préoccupation en 2026, en 2027. Donc nous, à court terme, on rend du pouvoir d'achat par la politique des chèques, etc., comme ont pu faire les macronistes, par les tickets de rationnement, mais on le rend par la baisse des taxes. Et en parallèle, on est conscient aussi que de toute façon, il n'y aura pas de gain fort de pouvoir d'achat sans réindustrialisation et sans relance de la production en France. Donc c'est pour ça qu'on baisse aussi les impôts de production, qu'on s'attaque aux normes et qu'on veut relancer évidemment la production en France. Donc je pense qu'au contraire, le RN, contrairement aux autres et à tous nos détracteurs, marche sur ses deux jambes, à la fois en protégeant le pouvoir d'achat des Français, mais aussi en relançant la production en France.
Alors, c'est ce genre de politique, évidemment, elle a un coût.
C'est-à-dire Bien sûr.
Voilà, l'idée du Rassemblement national, c'est un redressement de la France en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que ceux qui vous disent « je vais réindustrialiser 10 ans plus tard », il ne s'est rien passé. Parce que, bah, tout bêtement, entre les normes et le climat, bah, un patron n'a pas forcément envie de construire une usine, surtout s'il met 2 ans à obtenir l'autorisation et s'il ne fait pas partie des heureux élus à qui on promet qu'en 6 mois, ce sera torché. Quel est le temps dans lequel s'inscrit le Rassemblement national ?
Sur les finances publiques, on peut agir très rapidement par la baisse de la mauvaise dépense publique et de toute façon, c'est nécessaire. Sur le pouvoir d'achat, on peut agir encore une fois très rapidement par ces baisses de taxes. Sur la réindustrialisation, là, vous avez raison, c'est que c'est un processus qu'on va lancer très rapidement, faire sauter tous les verrous pour que les projets soient lancés rapidement, mais ça met plus de temps à porter ses fruits. Je veux dire, la réindustrialisation, c'est un projet. Alors, il y a certains secteurs où ça peut être fait en 5 ans, mais il y en a pour lesquels ça prend 10, 15 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut être très long. Et ça dépendra aussi des électeurs. Bien sûr, quand vous lancez une centrale nucléaire, alors, les meilleures années, on a pu en faire en 6 ans quand on les faisait en série au moment du plan Messmer. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi les Chinois. Mais malheureusement, on voit qu'à l'heure actuelle, en France, Flamanville, ça a mis beaucoup plus de temps, beaucoup de temps que ça. Donc bien sûr. Selon les secteurs, ça peut mettre plus de temps, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre toutes les conditions et lancer tous les projets industriels pour que ça puisse être fait. Évidemment, qu'on espère les mener à bien, parce que c'est ce que je dis souvent, la conquête de la souveraineté, ça ne se limite pas à des institutions et autres, c'est aussi cet aspect d'autonomie stratégique et d'autonomie industrielle. Et l'autonomie industrielle, la réindustrialisation, c'est des projets qui prennent du temps, ça ne se fait pas par des slogans d'un claquement de doigts, c'est un vrai travail de fond.
Autre question, moi quelque chose qui m'avait intéressé, je crois que c'était en 2024, mais c'était peut-être aussi dans votre programme en 2022, je m'en souviens plus exactement. C'était une idée d'un grand audit que oui. vous feriez sur l'intégralité des comptes publics. Et moi, ce qui m'amène à une ou deux réflexions, d'abord la première, c'est que ça fait 40-50 ans qu'il y a des gens qui sont en place et qui ont créé une sorte de système assez endogène où, par exemple, eh bien, les types de l'école des mines vont avoir toute leur corporation. On va avoir justement, j'en sais rien, même des gens qui se connaissent très bien, qui sont fonctionnaires, qui deviennent préfets, qui bossent dans les institutions territoriales de l'une à l'autre, etc. Est-ce que vous risquez pas d'avoir une certaine résistance de la part de l'administration pour appliquer vos politiques ? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, comment est-ce que vous comptez le mener, cette très grand audit ? Parce que ça veut dire qu'il faut être capable d'établir si tel poste est utile, si tel comité est utile, si tels experts sont utiles, quelles compétences on renationalise, je pense notamment à la question de McKinsey, ou par exemple, est-ce qu'on arrive à retrouver des compétences ? Ça veut dire qu'on dépense plus là-dedans ? Est-ce que finalement, il y a de l'argent qui est gaspillé ? Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de... On va dire un état profond, en fait, qui va faire de la résistance, probablement, à ce niveau-là.
Alors, nous, on a identifié un projet d'économie, déjà, de 50 milliards dès la première année, de 100 milliards à horizon 5 ans. Maintenant, pourquoi ce grand audit ? C'est parce qu'avec un audit, c'est comme vous faites aussi, d'ailleurs, un budget base zéro, ben, vous allez trouver des poches d'économie additionnelles. Et donc, nous, évidemment, qu'on veut faire la chasse à tous les gaspillages et à toutes les mauvaises dépenses publiques, d'où cette idée qui était portée lors des législatives de 2024, qu'on continue d'ailleurs à porter, d'avoir un grand audit des dépenses de l'État. Encore plus, comme vous l'avez dit, quand il y a les copinages, c'est-à-dire qu'il y a des rapports de la Cour des comptes qui sont intéressants, je suis beaucoup plus méfiant et sceptique maintenant qu'ils ont nommé Amélie de Montchalin, qui est censée juger les budgets et la gabegie qui a été faite pendant 9 ans par ses amis macronistes. Donc nous, on veut faire un audit indépendant, un audit qui vous donne toutes les clés, il identifie lui-même ce qu'il considère comme des gaspillages, mais après il est évident que ça revient aux politiques de décider s'il active les leviers ou pas, parce qu'on ne peut pas obéir de façon aveugle à un audit aussi indépendant et bien fait soit-il. Donc l'idée, c'est d'identifier au maximum toutes les pistes d'économie, et après ça, c'est évidemment un arbitrage politique qui doit être fait, voire pourquoi pas même... si on va au-delà, citoyen, s'il y a des choses qui peuvent vraiment être difficiles à faire, auquel cas peut-être que le référendum serait la meilleure solution, on ne sait pas. Mais je pense que dans un premier temps, de toute façon, c'est un arbitrage qui doit être politique, et si ça peut nous permettre de dégager 10, 20, 30 milliards d'économies additionnelles par rapport aux 100 qu'on a déjà identifiés, eh bien évidemment on les prendra, parce que les finances de la France sont dans un état vraiment catastrophique après ces 9 années de Macron.
On a deux questions, on se dispute.
Exactement. Voilà. Mais j'avais une petite. Est-ce que vous avez des mesures, je vais un peu provoque, mais des mesures démagos du style baisser le salaire du président de la République, baisser le salaire des élus, des députés, est-ce que vous avez réduire le nombre de sénateurs, j'en sais rien, est-ce que vous avez des idées un peu, entre guillemets, démagos et symboliques dans
ne plus subventionner le monde?
Là, sur les subventions, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Les subventions à certains médias, même militants, etc., c'est un sujet. Les subventions aux associations aussi, qui ouvertement agissent contre l'État français. Quand vous avez des associations qui sont là pour encourager et aider la submersion migratoire, qui est censée être illégale, quand on parle d'immigration illégale, on parle bien de ça. En fait, il n'y a aucune raison de donner des subventions à ces associations-là. Donc, bien évidemment qu'il y a des économies à faire là-dessus. Après, sur le reste, je n'ai pas encore tout le détail. De toute façon, on ne va pas annoncer maintenant le programme. C'est beaucoup
trop tôt. Ce serait une belle exclue pour Radio Courtoisie.
Il faut attendre à la rentrée. Mais un point, juste, peut-être avant la question, que j'aimerais aussi soulever, c'est sur cette question des relations avec les chefs d'entreprise. Moi, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très inquiets par rapport à l'immobilisme actuel et en fait la problématique qu'on a d'absence de majorité depuis 2024. Et j'ai vu encore une fois sur LinkedIn un tweet d'Edouard Philippe qui refait l'histoire sur son bilan qui était extraordinaire de 2017 à 2020. Bon, quand vous regardez tous les critères, chômage, endettement, etc., par rapport aux autres pays européens, c'était le deuxième plus mauvais à l'époque entre 2017 et 2020. Mais selon lui, il nous fait un exercice de révisionnisme assez extraordinaire. Mais surtout, il explique au patron, tenez bon, parce qu'on va rompre avec l'immobilisme, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui touche les chefs d'entreprise. Sauf que ce que les chefs d'entreprise et même l'ensemble des Français doivent avoir en tête, c'est que Édouard Philippe, là-dessus, leur ment une nouvelle fois, parce qu'il faut bien avoir en tête que si vous votez pour Édouard Philippe, c'est la garantie, au contraire, de continuer à la chien-lit qu'on a depuis 2024. Pourquoi ? C'est très simple, c'est mathématique, et je pense que tous les spécialistes politiques le savent, même s'ils ne l'ont peut-être pas encore intégré. C'est que Édouard Philippe n'a aucune probabilité d'avoir une majorité absolue aux élections législatives qui suivent l'élection présidentielle. C'est même pire que ça, parce que la présidentielle, s'il l'a gagnée, ce serait avec la voix de la gauche. Et il n'a aucune chance d'avoir une majorité absolue, ce qui veut dire que voter pour Édouard Philippe, c'est la garantie d'avoir l'immobilisme et la paralysie. Il n'aurait pas de majorité absolue, il serait l'otage de la gauche à l'Assemblée nationale, donc il pourrait au contraire rien faire. Et ce que je leur dis aussi aux chefs d'entreprise, alors on peut avoir un débat sur telle ou telle mesure économique, ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est que vous le voulez ou non, que ça vous plaise ou non, le seul parti qui peut débloquer le pays, et on en a bien besoin vu l'état des finances publiques et tout le reste, le seul parti qui peut avoir une majorité absolue, et tous les sondages le montrent, aux élections législatives qui suivront la présidentielle, c'est le Rassemblement National. Donc si vous voulez réellement débloquer le pays, si vous aimez la France, si vous aimez vos entreprises, il n'y a qu'un seul vote possible pour débloquer le pays, c'est celui du Rassemblement National.
Alors, il nous reste une minute. Je voudrais revenir sur la proposition qui était tout à fait intéressante de Marine Le Pen en 2022 d'un fonds souverain à 500 milliards et dont on dit que non, pas du tout, c'est obsolète, les fonds souverains, ça marche plus.
Mais c'est faux. Déjà, la France a la première épargne quasiment en Europe. On a quasiment 6 000 milliards. Et les Français vont beaucoup sur des produits, que ce soit le livret A ou l'assurance vie, qui ne sont pas du tout forcément les produits les plus rentables, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un livret A qui est, je crois, 1,5% à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on leur dit, évidemment, c'est sur la base du volontariat. On va pas piquer l'épargne des gens, et c'est complètement absurde. C'est les gens qui décident où ce qu'ils font et où ils veulent mettre leur argent. Mais de leur proposer un fonds souverain pour financer la Maison France, pour financer les entreprises françaises, avec un taux de rémunération qui sera bien plus intéressant que le livret A, quand on voit en plus qu'historiquement les Français sont assez patriotes, hein, je veux dire les grandes souscriptions, pour le coup c'était pour des emprunts d'État, ça a toujours bien marché en France. Mmh. Vous parliez tout à l'heure de Duralex, c'est pareil, ils demandaient 5 millions d'euros, ils ont eu 10 millions d'euros. Nous on est persuadés que ce fonds souverain, les Français, ce serait un succès formidable et que les Français iront massivement, les Français aiment leurs entreprises, les Français aiment leur pays, iront massivement justement mettre leur argent sur ce fonds souverain plutôt que sur le livret A qui sert à financer des logements sociaux qui ne sont pas forcément essentiels pour l'économie à l'heure actuelle.
N'y attribue aux bonnes personnes. Eh bien, merci beaucoup Charles-Henri Gallois pour votre exposé de la doctrine économique du Rassemblement National. On n'a pas eu le temps de parler de Jordan Bardella qui a dit qu'il était de droite, donc ça, ce sera un autre sujet. Merci et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Tout à l'heure, nous parlerons avec Fabien Bouglé de Tchernobyl. Pascal Pointu nous livrera sa chronique, mais tout de suite, un petit rappel de l'actualité.
Le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, a annoncé une série de mesures d'économie pour sa ville sur les 600 millions de budget. Chaque année, le patron de l'UDR a annoncé baisser la fiscalité de 60 millions d'euros à travers une série de mesures. Et puis hier, on apprenait le lancement de l'Observatoire des mairies RN, émanation de l'Observatoire national de l'extrême droite. L'objectif, payer des militants pour scruter les décisions prises par les mairies RN en France. Et puis enfin, une sombre affaire touche l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Ce dernier a été condamné en Algérie à 3 ans de prison ferme et plus de 5 millions de dinars pour son prix Goncourt de 2024, le roman Houri. Oui, effectivement, c'est à cause, notamment, il aurait terni l'image de l'Algérie. Enfin, je rappelle aujourd'hui que nous fêtons la Saint-Fidèle de Sigmar Engen et la Saint-Savin.
Merci beaucoup, Alexandre.
Ligne droite. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons débattre avec Fabien Bouglé de Tchernobyl. Bonjour Fabien Bouglé.
Bonjour Nicolas de Sèze.
Ah, moi c'est Richard, mais Nicolas, Richard, d'accord. Oh. Voilà. Si jamais il y a un Nicolas de Sèze, je le salue au passage.
En tout cas, c'est toujours Nicolas qui
paye. Exactement. Donc, le 26 avril, il y a 40 ans, donc autrement dit, dans deux jours, nous fêterons ces 40 ans, le réacteur nucléaire Vladimir Ilitch Lénine connaît un accident, et donc c'est la catastrophe de Tchernobyl. Tchernobyl, 40 ans plus tard, c'est toujours une espèce de totem qui est agité par les opposants en nucléaire en expliquant que on a réussi à déchaîner le feu du ciel et que petit Prométhée mal équipé et mal pensé, nous avons fait en sorte de croire enfermer une énergie surpuissante que nous sommes incapables de diriger. Et en fait, Tchernobyl sert à tous les ennemis du nucléaire. Mais Tchernobyl, est-ce un accident nucléaire ou est-ce un accident soviétique?
Alors, oui, vous avez raison de souligner la place de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl dans l'action antinucléaire, parce qu'elle est finalement devenue le totem de la lutte antinucléaire, des antinucléaires qui n'avaient pas cette catastrophe. D'une certaine manière, beaucoup d'antinucléaires rêvent de catastrophes nucléaires pour pouvoir confirmer leur action antinucléaire et leur idéologie antinucléaire. Alors oui, la catastrophe de Tchernobyl est une catastrophe nucléaire dont les raisons sont une problématique de technocratie soviétique. Donc c'est à la fois, pour répondre à votre question, une catastrophe nucléaire, ça c'est absolument incontestable, et une catastrophe issue de l'Empire soviétique déclinant. Il faut bien comprendre une chose essentielle, c'est que elle a été fortement instrumentalisée par les officines antinucléaires, dont je rappelle, et j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, les antinucléaires du type Greenpeace sont financés par les pétroliers et les gaziers. Parce que qui avait intérêt dans les années 70 à lutter contre le nucléaire, c'était évidemment les Texans et les pétroliers. Et un des grands financeurs de la lutte anti-nucléaire était Rockefeller, qui avait fait fortune dans le pétrole et qui continuait à gagner. Et c'est la fondation Rockefeller qui a financé les premières associations anti-nucléaires et en particulier les Amis de la Terre, qui ont ensuite organisé les grandes manifestations en Allemagne. Et donc, cette guerre anti-nucléaire a trouvé son totem. Et dans la guerre informationnelle, c'était absolument fascinant. Et moi, je me souviens bien, et on est de la même génération, Richard, on était tout à fait jeunes quand à la télévision, on voyait les premières images.
On était jeunes il y a 40 ans.
Voilà, exactement. Et donc, on était enfants et on voit bien que ça a imprégné les esprits. Mais c'est de la propagande. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, contrairement au rapport publié par Greenpeace, a fait 50 morts, entre 50 et 100 morts parmi les pompiers qui étaient chargés de d'éteindre le feu lié à la centrale nucléaire. L'UNESCEAR, qui est le système onusien qui a été mis en place par l'Agence internationale de l'énergie atomique avec plein de pays, notamment l'Ukraine, parce que le Tchernobyl est en Ukraine, faut le rappeler.
Ça se situe dans la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Exactement. Eh bien, le rapport de l'UNESCEAR explique que potentiellement, donc on a eu entre 50 et 100 morts, donc, et potentiellement 6000 personnes pourraient mourir à terme d'un cancer de la thyroïde, sachant que le cancer de la thyroïde, qui effectivement peut intervenir dans le cas de catastrophe nucléaire, est le cancer le moins mortel de tous les cancers. Et ce qui est tout à fait passionnant, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nucléaire, les vérités cachées », où j'ai révélé justement toutes les informations sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et il faut la mettre en comparaison avec la première catastrophe énergétique qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas intervenue dans le nucléaire, mais est intervenue dans les énergies renouvelables. C'est dans le domaine des énergies renouvelables qu'il y a eu la première catastrophe énergétique et humaine, puisque c'est le barrage chinois, en 1975, qui a fait l'objet d'un typhon, et la rupture de ce barrage a fait 150 000 morts en quelques jours. Donc, si vous voulez, c'est bien les énergies renouvelables qui sont la cause d'une grande mortalité face à des catastrophes nucléaires qui sont instrumentalisées. Alors, vous savez, j'ai fait une comparaison. Le nucléaire, c'est un peu comme les véhicules et les moyens de transport. Le moyen de transport qui paraît le plus mortel, c'est l'avion. C'est celui qui est le plus angoissant. Quand vous avez une catastrophe d'avion, vous avez des images avec un avion éventré, avec éventuellement même des corps de personnes qui ont été déchiquetées. Et pour autant, l'avion est le moyen de transport le moins mortel. Celui le plus mortel, c'est la moto. Quand une personne meurt d'une moto, d'un accident de moto, on n'en fait pas le 20 heures. Si 150 ou 300 personnes meurent dans un avion qui s'écrase, ça fait le 20 heures. Et pour autant, eh bien, les 300 personnes, il est plus courant que 300 personnes meurent d'un accident de moto qu'un accident d'avion. C'est le côté spectaculaire de l'accident d'avion qui nous fait imaginer que l'avion est très mortel, alors qu'en fait, c'est très, très peu mortel. C'est exactement la même chose pour une centrale nucléaire. Les images sont édifiantes, elles sont angoissantes, elles sont spectaculaires. D'ailleurs, il y a eu un film, Tchernobyl, qui reprend avec catastrophisme. Et pour autant, le nucléaire est par kilowattheure produit le moyen de production d'électricité le moins mortel, le plus mortel étant les centrales au charbon.
Le moins mortel est le plus sûr, parce que effectivement, cette industrie nucléaire que la France maîtrise parfaitement et qu'elle pourrait même maîtriser encore mieux, on a parlé des réacteurs de quatrième génération dans la matinale, ces réacteurs sont entourés d'un luxe de sécurité inimaginable.
Oui, c'est-à-dire que les catastrophes donc la catastrophe de Tchernobyl et de Three Mile Island aux États-Unis, ont conduit à, au fait, parce que le nucléaire est une technologie tout à fait récente hein, dans l'histoire de l'humanité, hein, ça a 50, 100 ans, hein, pas plus, moins de 100 ans même. Et donc, on a appris des exemples et, comme vous le dites, la sûreté nucléaire est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut préciser aussi autre chose, c'est que la centrale de Tchernobyl était une centrale au graphite qui était une ancienne technologie qu'on n'utilise quasiment plus dans les pays qui utilisent le nucléaire. Il y en a quelques-unes encore en action de technologie russe, d'Union soviétique, mais il n'y en a plus beaucoup en action dans le monde. Le monde préférant, ce qu'on appelle les centrales nucléaires à eau pressurisée, celles que nous avons utilisées, celles que les Américains utilisent et celles que les Russes utilisent désormais.
Je voudrais ajouter juste un petit détail, c'est que Valéry Legasov, haut fonctionnaire soviétique chargé des questions nucléaires, s'est suicidé 2 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Il s'est pendu après avoir dénoncé les défauts des centrales nucléaires russes et il a publié à titre posthume un article dans la Pravda, voilà, où il expliquait que c'était vraiment la manière dont les Russes concevaient, finançaient et donc finançaient mal et exécutaient mal le plan de construction des centrales nucléaires qui avait été directement cause de cet accident de Tchernobyl.
Voilà. Tout à fait. Non, mais il y a une liaison très forte entre l'Union soviétique déclinant et la technologie russe de Rosatom, qui à l'époque n'existait pas encore, Rosatom, mais ça interviendra après la création du groupe Rosatom. Et d'ailleurs, les Russes utilisent maintenant les réacteurs à eau pressurisée qu'on utilise partout dans le monde et dont on maîtrise parfaitement la technologie et dont on a développé des règles de sûreté, et en particulier la France, extrêmement drastiques, peut-être même trop drastiques, au point de verrouiller, de corseter. On l'a vu avec l'EPR2 de Flamanville, où justement, à force de faire de la sûreté, on verrouille l'activité et le lancement. Donc, il faut revenir, d'ailleurs, il y a eu une fusion des autorités de sûreté qui était l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui ont fusionné justement pour éviter. Il y a plein de règles qu'on a surinterprétées de l'Union européenne pour la sûreté nucléaire, alors qu'on pourrait justement l'affiner. Beaucoup d'ingénieurs évoquent cette question fondamentale. En tout état de cause, en France, on n'a jamais eu de problèmes nucléaires, on n'a jamais eu de catastrophe. Il y a eu de temps en temps, il y a des incidents, mais c'est vraiment marginal. On a eu des attentats contre nos centrales nucléaires, par exemple des drones lancés par Greenpeace ou une roquette qui avait été lancée par un militant contre Superphénix. Donc oui, on a des attentats d'officines antinucléaires contre nos centrales nucléaires, mais on n'a pas de catastrophe nucléaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le redis, la catastrophe nucléaire est instrumentalisée. On a eu également la catastrophe de Fukushima, qui n'est pas une catastrophe nucléaire, qui est une catastrophe naturelle, puisqu'il y a eu un tremblement de terre suivi d'un tsunami, et en fait, la centrale nucléaire de Fukushima a été débordée par le tsunami, et les systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné. Il y a une autre centrale, un tout petit peu plus haut, qui était en action et qui n'a pas subi le tsunami. Mais il n'y a pas eu de morts à Fukushima. Il y a eu des morts par le tsunami, 20 000 morts, mais il n'y a pas eu de morts il y a eu plus de morts pour le tsunami, mais il n'y a pas eu de morts liées à la catastrophe nucléaire. Et c'est très intéressant, il y a un journaliste qui est intervenu à l'époque sur cette catastrophe et qui a vu progressivement l'information se passer de la question de la catastrophe naturelle du tsunami à l'instrumentalisation par les antinucléaires. En tout cas, c'est ce qui a été instrumentalisé par Angela Merkel, le tsunami de Fukushima, pour confirmer la fermeture des réacteurs nucléaires en Allemagne, et au point que bien les réacteurs, l'intégralité des réacteurs nucléaires en Allemagne sont fermés. Et bien aujourd'hui, l'électricité allemande fonctionne avec du gaz, des éoliennes et des panneaux solaires, et surtout avec du charbon. Et je rappelle, le charbon, c'est 100 morts par térawattheure produit, 100 morts par térawattheure produit. Depuis la catastrophe de Fukushima, c'est plus de 200 000 Allemands, plus les riverains en Europe, qui sont morts du fait des particules fines au charbon allemand. Donc c'est assez diffus. Les centrales au charbon, on ne voit pas qu'elles sont mortelles, mais elles créent beaucoup de maladies pulmonaires. Et vous voyez, c'est tout le paradoxe entre la mortalité prétendue du nucléaire qui est catastrophique, qui donne une image comme ça un peu édifiante, et le caractère diffus des centrales au charbon que les Allemands adorent et qui est pour le coup très mortel.
Avec un charbon d'ailleurs particulièrement mauvais, puisque c'est de la lignite, autrement dit c'est l'un des charbons les plus crasseux au monde.
C'est la lignite qui est un des charbons les plus crasseux, et en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que le charbon et les centrales au charbon diffusent des fumées radioactives, parce que les fumées de charbon, de centrales au charbon, contiennent une radioactivité, et on a mesuré la radioactivité autour des centrales au charbon, et en particulier autour des centrales au charbon allemandes, c'est 10 fois, 20 fois supérieur à la radioactivité à la proximité d'une centrale nucléaire. Donc c'est, vous voyez, le paradoxe incroyable avec Greenpeace en Allemagne, qui soutient même le charbon, ce qu'ils appellent le charbon de transition, parce que ils en arrivent au paradoxe fou de considérer que le charbon est plus écologique que le nucléaire. On arrive à une sorte de paradoxe absolument fou.
Dans cette instrumentalisation de Tchernobyl, il y a l'idée que voilà, ça peut exploser à tout bout de champ, alors que le nombre d'accidents nucléaires par rapport au nombre de centrales nucléaires en activité est vraiment minime. On nous explique aussi que la radioactivité est terrifiante parce que c'est une espèce de poison insidieux qui peut tuer plusieurs années après qu'il y a eu une exposition à la radioactivité. C'est exactement ce qui se passe avec les particules de charbon, voilà, qui peu à peu font leur œuvre maléfique au sein des poumons de ceux qui les respirent. Comment expliquer que on est à ce point-là encore opposé au nucléaire dans certains groupes militants, puisque on a quand même l'impression que dans les gouvernements, dans le monde entier et même en France et dans l'opinion publique, le nucléaire n'a pas si mauvaise réputation.
C'est un paradoxe qui est lié, je reviens à ce que j'ai dit au début d'émission, qui est lié au fait que Greenpeace, qui était d'abord une ONG d'action contre le nucléaire militaire, pour déployer et a fait des actions contre les essais nucléaires américains ou contre les essais nucléaires français, hein, vous vous souvenez avec l'affaire du Rainbow Warrior, a progressivement développé son activité, étoffé son activité sur le nucléaire civil financé par les pétroliers américains et WWF plutôt financé par le gaz. Ce qui fait que comme pendant des années, je pense les 25 dernières années, on va dire qu'on était plutôt gâté d'un point de vue énergétique. La France avait l'électricité la moins chère en Europe, on n'avait pas de soucis de coupure d'électricité, on ne se posait pas toutes ces questions. Et on a arrêté d'avoir des chaires universitaires sur le sujet. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a tellement pas d'intellectuels que ben, c'est un citoyen comme moi qui a écrit des livres sur le sujet, alors que je ne suis pas initialement de formation dans le domaine énergétique. Je suis juriste, consultant en gestion de fortune et les patrimoines. Donc, il n'y a plus de formateur, il n'y a pas eu d'informateur sur le sujet. Et ça a laissé le champ libre à toute la propagande des officines antinucléaires. Ça a laissé le champ libre aussi à des partis politiques issus de ces ONG antinucléaires, je pense à Europe Écologie Les Verts et Les Verts, et François de Closet disait l'antinucléarisme est pour les écologistes ce que la lutte des classes est pour le marxisme, c'est-à-dire vraiment l'alpha et l'oméga. Et donc, de ce fait, comme il n'y avait plus personne, et puis comme on avait des ingénieurs qui sont peu habitués à simplifier l'information dans le domaine énergétique au grand public, eh ben, en fait, on a eu un boulevard informationnel, de guerre informationnelle pour les antinucléaires qui ont occupé le terrain pendant 25 ans. C'est-à-dire que les ingénieurs n'ont pas pris en considération qu'il y avait une guerre, ils étaient sûrs de leur technologie, ils n'ont pas tort d'ailleurs, et en face, il n'y avait pas de réponse. Ça fait donc 25 ans que des biais cognitifs sont installés dans l'opinion publique, dans les films, dans les publicités. Combien de fois on utilise le terme « pollution » en mettant une cheminée de centrale nucléaire qui ne produit que de l'eau, hein? Donc, c'est de la vapeur d'eau dans les centrales aéro-réfrigérantes. Il y en a à peu près la moitié des centrales nucléaires qui ont des cheminées aéro-réfrigérantes. Le reste est au bord de la mer, donc n'a pas besoin de cheminée de ce type. Ou Fessenheim, par exemple, n'a pas de cheminée aéro-réfrigérante. Et c'est devenu le symbole. Et donc, on a associé la cheminée de centrale nucléaire à la pollution. Et puis, on associait l'écologie à l'éolienne. Et ça, ça a créé des biais cognitifs extrêmement puissants, un venin de la trahison énergétique, le combustible de la trahison énergétique qu'il faut combattre. Et c'est ce sur quoi je travaille depuis des années avec mes livres, pour reconstruire, réinformer sur le sujet, parce que effectivement, la France est un des pays moteurs de la production électrique sur le nucléaire. 70% de notre production électrique est nucléaire, et grâce à cela, eh bien, nous souffrons beaucoup moins, en tout cas pour notre électricité, du fait de la guerre en Iran. Donc, c'est essentiel.
C'est essentiel. Vous dirigez la revue Transition Énergie, vous ne l'avez pas mentionné à côté de vos livres. Il nous reste un peu moins d'une minute, un peu plus, pardon. Quel est le prochain dossier de votre revue, et est-ce que le nucléaire fait partie des sujets que vous allez traiter?
Ah oui, là, ben, en fait, le prochain sujet, là, vous me demandez de spoiler.
De divulgâcher, s'il vous plaît.
Il est évident qu'il sera lié à l'actualité, à la guerre en Iran, et beaucoup sur la trahison énergétique, c'est-à-dire qui sont les traîtres, qui a détruit l'économie française, et contre qui on va devoir travailler pour reconstruire notre pays. Il y avait précédemment un représentant du Rassemblement national. Il y a un énorme travail politique et énergétique à réaliser. Et d'abord, il faut faire cet audit et ce constat. C'est qui a œuvré contre notre système énergétique et notre système nucléaire, qui est un trésor, Richard, il faut bien le préciser. Le patrimoine nucléaire français est un trésor pour l'économie française. C'est le cœur battant de notre économie. Et donc, ceux qui ont saboté notre économie au travers de notre système énergétique doivent payer et doivent être dénoncés.
Eh bien, merci beaucoup pour ces paroles fortes, Fabien Bouglé. J'espère que, évidemment, quand Transition et Énergie abordera cette question des traites, vous serez à l'antenne sur Radio Courtoisie. Et merci aussi d'avoir redressé les mauvaises mythologies qui ont fleuri autour de Tchernobyl. À très bientôt sur Radio Courtoisie.
Ligne droite.
Et maintenant, j'accueille avec plaisir Pascal Pointu, qui va arriver dans le Zoom dans peu de temps. Voilà, d'habitude, on a parfois des surprises. Une tempête a abattu un poteau. Quand c'est pas une tempête, c'est un bûcheron qui a fait en sorte de l'abattre aussi. Voilà, mais Pascal réussit toujours à arriver et à nous parler des sujets qui lui tiennent à cœur et qui sont fondamentalement ceux de la France rurale. Bonjour Pascal Pointu.
Bonjour Richard.
Alors, je crois que aujourd'hui votre sujet, c'est la France.
Eh oui, la France, parce que j'ai été très ému en regardant un reportage cette semaine de cette maman seule, maman solo comme on appelle, qui était obligée de demander une avance à son patron pour mettre 20 euros de carburant dans sa voiture pour aller travailler. Et alors, ça m'a fait penser un peu à la chanson un peu de Lettre à France de Michel Polnareff, même si le but n'était pas le même, mais où il regrettait d'être parti et il regrettait cette France qu'il avait tant connue, tant aimée. Et aujourd'hui, du France lancé en 1962, notre navire transatlantique, du Concorde qui s'envolait en 1969, que nous reste-t-il de la grandeur de la France aujourd'hui ? Cette France fière d'une technologie avant-gardiste, cette France qui, au début des années 80, était leader mondial de la téléphonie mobile. On l'a oublié avec Alcatel. Et quand Alcatel a demandé à François Mitterrand de l'aider financièrement pour acheter le Suédois Ericsson face à Motorola, Mitterrand a refusé, pensant que la téléphonie mobile n'était qu'un gadget. Alors cette France des hauts fourneaux, cette France des manufactures, du textile, c'est désormais la France des souvenirs. Cette France agricole qui, en 1900, comptait un Français sur deux dans nos champs et qui, actuellement, ne représente que 3% des paysans. Depuis plus de 40 ans, l'avènement de la gauche au pouvoir n'a amené que désindustrialisation, abandon de nos filières paysannes, de cette France fière d'être indépendante et souveraine sur notre alimentation, sur notre production d'électricité. Tout ceci est malheureusement fini par l'unique fait que certains gauchistes dissimulés en escrologistes sont des ennemis de notre nation. D'une France rayonnante sur les 5 continents, aujourd'hui une France ridiculisée qui n'a de cesse de reculer. PIB, souveraineté, éducation nationale, industrialisation, agriculture et j'en passe encore. D'une France qui s'imposait à Bruxelles ou à Strasbourg comme en 1966 lorsque le général de Gaulle a refusé de siéger estimant que la PAC due à la France était insuffisante, et ben cette France-là, aujourd'hui, elle est soumise à l'Allemagne de Madame von der Leyen, incapable de s'opposer, incapable de fédérer autour d'elle. Aujourd'hui, la France est malade, car depuis que la gauche a atteint le pouvoir, elle n'a fait que prendre des orientations politiques, non pas pour l'intérêt général, mais au profit d'une idéologie, en supprimant les lois Pasqua, par exemple, qui limitait le droit du sol et qui mettait des barrières sur les conditions de la nationalité française, en supprimant du code pénal le 31 décembre 2012, comme l'a fait Manuel Valls et François Hollande, l'infraction pénale d'étrangers en situation irrégulière, on ouvre grand les vannes de l'immigration illégale. En imposant les 35 heures, on perd notre compétitivité. On paupérise des classes moyennes. Jacques Chirac avait une expression idoine. On greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, mais jamais des couilles. Et là, le problème, il est là, c'est-à-dire que c'est que nous n'avons pas de courage politique en France. Nous n'avons aucun courage politique pour réformer ce pays comme il aurait dû l'être réformé depuis 1980. Et aujourd'hui, nous payons l'addition. Aujourd'hui, nous sommes soumis à un système qui, malheureusement, fait que, pour survivre, certains sont obligés de prendre deux travails, certains sont obligés d'affronter les dures réalités de la pauvreté, alors qu'ils pensaient que juste les revenus du travail leur suffiraient quand même pour vivre. Eh ben non, aujourd'hui, ils ne vivent pas, ils survivent. Et malheureusement, la situation va s'empirer, puisque il faut bien se dire que actuellement la situation que nous vivons au Golfe, où nous sommes otages, où j'ai entendu le président de la République nous dire que ça nous a coûté 6 milliards, alors que je ne sais même pas ce qu'on y a fait là-bas, hein, puisque nous ne sommes jamais intervenus, et le Charles de Gaulle qu'on nous avait annoncé pour libérer le détroit d'Ormuz, apparemment il n'y est plus. Donc on se retrouve aujourd'hui otage d'une situation politique catastrophique, parce que des gens n'ont pas eu le courage de se dire « il faut arrêter de dire que la retraite à 60 ans est une avancée ». La retraite à 60 ans est une avancée pour ceux qui ont, tout au long de leur carrière, se sont usés sur des chantiers, sur des choses comme celle-là. Mais aujourd'hui, si on veut sauver notre système de retraite, il faut aller plus loin que 60 ans. Il faut revenir aux 39 heures. Et j'ai beau écouter la droite comme la gauche, tout le monde dit que les 35 heures ont été une faute professionnelle politique grave, gravissime, mais j'ai jamais entendu la droite dire « dès que je reviens, je remets les 39 heures ». Voilà où nous en sommes. Nous avons des petits politicards, des petits politiciens qui se battent pour des querelles de clochers, mais nous n'avons plus d'hommes d'envergure ou de femmes d'envergure qui sont capables de donner une direction, un cap pour la France.
Merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique. Voilà, dont les mots étaient forts, la réalité l'est aussi. Juste une dernière question, mais il nous reste 40 secondes. La première décision que vous prenez dès que vous êtes chef de l'État?
Je reviens aux 39 heures.
Vous revenez aux 39 heures. Voilà. Et effectivement, personne ne pose cette question. Eh bien, voilà, nous prenons l'engagement. Le prochain homme politique qui passe sur Radio Courtoisie, on lui posera la question des 35 heures et de ce qu'il compte faire. Merci beaucoup, Pascal Pointu, et à la semaine prochaine.